bémol, fa dièse, un, fa dièse, deux fa dièse, double croche, attention, un temps et clac. Jack Souvent, ça va mon vieux?
Il pleut à Toulouse,
oh, c'est mon chéri, il pleut à Toulouse, mais c'est pas contre vous, vous savez. Il ne faut pas prendre la météo personnellement, c'est souvent un problème qu'on a. On dit, ah les salauds, ils ont fait pleuvoir, après on s'en prend aux politiques. Et...
Hein? Ouais, mais j'ai eu ma petite phrase du jour, parce qu'il y avait Nadine qui installait ses mandarines. Elle m'a dit, mais il ne pleut que sur les belles plantes.
Nadine a installé ses mandarines, déjà, je vous remercie pour ce moment. Il ne pleut que sur les belles plantes, bien sûr. Oui. Et il pleut que quand on est là.
Je l'ai pris pour moi, alors je l'ai renversé dans le bac à fruits.
Vous allez vous balader dans...
Vous, j'ai pas... Tito, je vous entends.
On entend le rire.
Si la météo, vous ne parlez pas de Toulouse où il flotte, ça va mal se passer.
Il s'est fait engueuler sur Internet hier soir, Tito. Il y a des qui disent c'est répétitif. La météo. Ça me fait rire, j'imagine un mec qui écoute toutes les météos depuis 6 mois. Et dites-moi, alors, ça fait plaisir de vous imaginer en direct avec nous dans les rues de Toulouse, là.
Ben oui, vous imaginez quoi?
Ben j'imagine un homme avec une petite robe toute simple, assez sobre comme ça, très peu maquillé, peut-être un tout petit peu de fard sur les yeux, un tout petit peu de rouge sur les joues, peut-être sur les lèvres un tout petit peu de mauve, peut-être les cheveux un tout petit peu permanentés, très peu de bijoux, et qui part comme ça, tout simple.
Surtout, c'est la teinture dans les cheveux que je me suis fait ce matin. Là,
oui, ah, vous êtes teint? Je m'en doutais un peu. Il y avait un débat ici, je vous en... Jack, je voudrais que vous fassiez dire une phrase aujourd'hui.
Oui.
À quelqu'un que vous croisez, parce que je l'ai lu dans un Modiano, je suis obsédé par cette phrase, c'est « Il ne faut pas prendre mon cul pour un bal masqué ».
Oui, c'est le pari du jour.
Voilà, vous la faites dire à quelqu'un dans la rue à Toulouse. À tout à l'heure, cher ami.
C'est compliqué, hein.
Faire dire une phrase dans la rue, tendre le micro, écouter, parler, transmettre, échanger, c'est le quotidien de Jack Souvent, l'homme aux pieds nus dans les rues de France et de Navarre, qui cherche à redonner la parole à ceux qui refusent de la prendre. Jack souvent, Jack de temps en temps, Jack plus en plus souvent. Jack, le jour se lève, il faut tenter de vivre. Bonjour Thierry Paret.
Salut Edouard, bonjour à tous. Au moins 5 morts, dont l'assaillant, et une quarantaine de blessés, dont 3 lycéens de Concarneau dans le Finistère. C'est le nouveau bilan d'une attaque hier à Londres, donc une attaque à caractère terroriste islamiste, selon les autorités britanniques, qui n'ont toujours pas révélé, ceci dit, l'identité de l'assaillant. Un homme a donc d'abord foncé à vive allure en voiture sur le pont de Westminster en fauchant de nombreux piétons, le maximum qu'il pouvait. L'assaillant, toujours au volant de son véhicule, s'est ensuite encastré dans une barrière du Parlement anglais. Indemne, il a alors réussi à pénétrer dans l'enceinte du Parlement, dans le jardin du Parlement, où il a poignardé à mort un policier avant d'être abattu finalement par la police. L'homme aurait agi seul, ce qui reste là aussi évidemment à confirmer. Cette attaque de Londres, elle est survenue tout juste un an après les attentats de Bruxelles, hein, la Belgique a commémoré ces attentats hier. Elle intervient aussi cette attaque alors qu'en France, les restaurants, les hôtels, les salles de spectacle continuent de payer l'addition après les attentats de novembre 2015. C'est du moins ce qu'indique le rapport annuel du médiateur de crédit aux entreprises. C'est un organisme chargé de débloquer les négociations entre banques et entreprises en difficulté lorsqu'il s'agit de renouveler un crédit. Et bien sur Paris Intramuros, le nombre de dossiers traités a bondi de 17% en un an. Pour la seule année 2016, l'APHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, aurait dépensé plus de 1,2 million d'euros dans des missions de conseil et d'audit réalisées par des entreprises extérieures comme Capgemini par exemple. La directrice précédente s'était fait épingler par la Cour des comptes pour avoir recours à ce type de prestations. Le directeur général actuel de la PHP, Martin Hirsch, assurait lui pourtant il y a quelques mois avoir mis un terme à ce type de contrat. Les déclarations de patrimoine des 11 candidats à l'élection présidentielle ont été mises en ligne hier soir, peu avant 18h, sur le site de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Biens immobiliers, comptes bancaires, véhicules. Voilà, ces déclarations sont publiées pour la première fois conformément aux lois sur la transparence adoptées en 2013 après l'affaire Cahuzac. Manuel Valls contrevient gravement au principe de loyauté en ne soutenant pas Benoît Hamon. Ce n'est pas n'importe quel organisme qu'il dit, c'est la haute autorité de la primaire du PS qui dénonce dans un communiqué le comportement de l'ancien Premier ministre. Selon elle, en ne parrainant pas Benoît Hamon et en critiquant son programme, Manuel Valls est allé à l'encontre de l'esprit des primaires dont l'engagement principal consiste à soutenir sans réserve le candidat sorti vainqueur. La Corée du Nord pourrait être, selon les États-Unis, à l'origine du vol de 81 millions de dollars sur un compte que la Banque centrale du Bangladesh détenait auprès de la Réserve fédérale de New York. Oula. C'est ce qu'affirme ce matin le Wall Street Journal. C'est vrai. Les ventes mondiales de billets de cinéma ont atteint un nouveau record l'an dernier à 38,6 milliards de dollars. Alors elles ont baissé hors Amérique du Nord pour la première fois en 12 ans en raison d'un ralentissement apparemment du côté de la Chine.
Ça me dégoûte. J'ai décidé d'être indigné par des choses qui ne sont en soi pas choquantes. C'est ma façon d'exprimer ma personnalité. Ça me dégoûte.
Tu vas pouvoir être bien dégoûté là parce que c'est la journée mondiale de la météorologie ce jeudi qui commémore l'entrée en vigueur en 1950 de la convention qui a institué l'organisation météorologique donc mondiale. Alors pour l'occasion, chaque 23 mars, l'organisme délivre les conclusion de son rapport annuel sur le climat. Et cette année, tous les voyants sont au rouge. L'an dernier, la température moyenne a été supérieure de 1,1 degré par rapport à la moyenne de l'époque pré-industrielle. Dans de nombreuses régions, les populations ressentent déjà fortement les effets du réchauffement. Au Koweït, par exemple, le thermomètre a atteint les 54 degrés. C'est la température la plus élevée jamais enregistrée en Asie.
En Asie, oui.
Et en Afrique de l'Est, le manque de pluie et les chaleurs extrêmes ont précipité près de 20 millions de personnes dans la sécurité alimentaire.
Le Koweït, c'est en Asie ?
Eugénie,
vous allez vérifier tout ça pour tout à l'heure. Merci, mademoiselle.
Et alors, certains chercheurs avouent que ces changements sont tellement énormes que les scientifiques touchent désormais les limites des connaissances du système climatique et selon eux, la planète entre en territoire inconnu.
Territoire inconnu, merci. Vous avez dit certains chercheurs, vous avez du mal à passer, à alterner tous ces sifflantes. Dans ces cas-là, pourquoi ne pas dire autre chose, puisque vous écrivez au même vos textes, au lieu de dire certains chercheurs, vous auriez pu dire quelques chercheurs, ou bien certains types qui cherchent.
C'est vrai.
Vous auriez pu dire aussi, tiens, il fait beau, allons au cimetière.
Oui, mais
ça marchait aussi.
Il se met des challenges.
Mais cimetière, c'est pas facile. Hein.
Challenge, un mot anglo-saxon, mais qui est usagé.
Il met la barre très haut, il a peut-être
on a un spécialiste météo qui est Tito. Tito, vous constatez ces changements climatiques, ce réchauffement de la planète au quotidien dans vos météos flamenco ?
Exactement, c'est régulier. En fin de compte, la Terre est en train de se réchauffer. Nous allons pouvoir avoir des glaçons pour boire le Ricard.
Mais quel arnaqueur, il y connaît autant en météo que moi en rugby à neuf, qui n'existe pas.
Il faut bien faire illusion.
Atmen, vous vouliez rebondir sur le patrimoine des élus ?
Moi, c'est assez malsain parce que par curiosité, moi j'y suis allé.
C'est
hier.
Vous qui êtes malsain alors ?
Moi, je suis malsain.
Ah oui, d'accord. Ça,
donc, ayant pas beaucoup de fric, je suis allé sur le patrimoine.
Vous êtes allé en bon français, vous étiez déjà indigné avant. Il était indigné avant. Vous avez ouvert Internet en disant genre,
j'ai râlé.
Et alors, qu'est-ce que vous avez vu ?
Oh, j'ai vu des choses incroyables. Il a deux montres Fillon à 13 000 euros.
Alors qu'il a qu'un bras gauche, il
a deux montres. Il y avait deux montres, il y a une Opel Corsa chez Amon.
Il a deux voitures, alors il a qu'un cul.
Voilà, il y a de la Range Rover, il y a des découvertes. Ça m'a un peu.
Il y a pas de patrimoine immobilier chez Macron.
Thomas, vous vous rappelez la voiture ? Ça avait choqué les Français parce que Jospin, à l'époque, n'avait pas assez.
Oui, c'était une Renault 19 Chamade.
Et alors, quand ils ont trop, on dit, ah ben ils s'en sont foutus plein les poches. Quand ils ont pas assez, ben dis donc, ils sont bien cons là où ils étaient de pas en avoir plus.
Et il y a des fossiles préhistoriques chez Cheminade ou chez un autre. Il a chez lui des trucs qui sont évalués très très cher parce que c'est des trucs préhistoriques. Il a trouvé des vases, des conneries, puis des têtes. Voilà.
Il y a Asselineau qui a du patrimoine immobilier du côté de la Nouvelle-Calédonie. Je crois des choses un peu bizarres comme ça aussi.
Ça existe.
C'est bon,
pourrait être bizarre.
Allez consulter les
sites. Il est 7h08, on a déjà dit le mot Asselineau, on peut mettre le générique de l'émission.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Des miaou, des wawa, des cotes.
Tous les animaux de la ferme sont là.
Il paraît qu'ils font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Edouard Baird.
Attendez, là, je sais plus comment on fait l'émission. Donc, là, par exemple, moi, j'avais mis un croissant parce que je croyais qu'il y avait un morceau de musique.
Mais c'est générique.
Il y a un morceau de croissant.
Alors, on va se retrouver pour faire un petit tour de la presse. Après, on a plein d'invités.
Un peu
à 7h17, parce que c'est une émission très bourgeoise, c'est à 2 minutes près. C'est Sophie Amara qui nous parlera de son documentaire sur les traces d'Al-Baghdadi. Mais tout de suite, donc, un morceau musical, émission de 1932. Et ensuite, on parle un petit peu de l'actualité. Hein, Thomas ?
Jean Sablon.
Oui, voilà.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi.
7h, 9h.
Édouard Baird. Là, on a déjà à cette heure-là, donc on est censé avoir acheté une livebox, une bagnole.
À boire, à manger.
Il y a la bière à 7h09, ça monte un petit peu le portrait.
C'est nos auditeurs, c'est pour nos auditeurs.
C'est nos auditeurs. Et la voix du couple Picard est étonnante parce qu'il est très chaleureux pour un marchand de glaçons.
Monsieur et Madame Picard, oui absolument, au risque de faire fondre la marchandise.
C'est excellent, merci, j'ai apprécié. Mais vous croyez qu'ils sont vraiment ensemble, les Picards ?
Moi je pense que c'est comme les époux, les vrais faux époux turinges, des espions. Je pense que les RG sont derrière
c'est une façade, merci voilà. Thomas Baumgart.
Je vous en prie.
Qu'est-ce que vous avez lu, vu, entendu, bu, connu ce matin, Thomas par exemple ?
Il n'y a pas un petit générique.
Atmen.
J'aime bien le générique.
Les connoisseurs ?
Oui.
Oh là là.
Ah oui. Quel enthousiasme.
Bon, alors, votre générique des connoisseurs.
Voilà. Il y a des traditions, il faut
ritualiser. Sinon, dans les heures de la République, voilà. Annoncées par des huissiers enchaînés autour du cou, ils ont mis les patins afin de ne pas abîmer les parquets. Ils sont là, entre les tapisseries d'Aubusson, juste avant le petit déjeuner servi dans le jardin d'hiver. Ce sont les connoisseurs, j'en peux plus.
Merci, alors, général.
Ouais, merci.
Oui. Oui, alors
qu'est-ce que vous avez vu, Tito, j'aime bien, vous prenez le créneau de
craque.
J'aime bien cette énergie du jeudi.
Dans ma série, j'ai un petit mot qui vient du sud de la France qui peut exprimer plein de trucs.
C'est quoi cette série?
C'est la série des petits mots.
Ah, je l'ignore, j'ai pas dû venir.
Et donc, mon petit mot, c'est ébé. Alors, la surprise, ébé. L'admiration, ébé. On peut dire ébé de toute l'impatience, ébé. La colère, ébé. Donc, ébé, ça.
L'ennui.
Ébé. La joie, ébé.
Il y a Jean-Bernard Ébé, le journaliste.
Voilà aussi, ouais. La mélancolie.
Il y a aussi la mélancolie.
Ébé, c'est ce qu'il y a de plus beau.
Ébé.
Ébé.
Ça, c'est quand on est enrubé. Alors, et donc, cet ébé vient d'où?
C'était ébé, ça vient du sud de la France, un petit mot.
Ah, mais il n'y avait pas. Il n'y a aucune explication, il n'y a rien.
Attends, il crée sa propre actualité.
Je vois Sophia Amara qui est indignée là-bas du vide de cette annonce.
Elle est en train de mettre son manteau.
Elle m'a dit, je pars. Si c'est tout ce que j'ai appris sur ébé, je croyais que vous alliez me dire, ça vient de là, ça vient d'à l'époque. C'était les ébénistes qui s'ennuyaient. Et on a appelé l'ébéniste, il était en train d'appeler les bois, il dit, ébéniste, viens. Puis à force de l'appeler, comme il n'entendait rien à cause du bruit de la scie à bois, il n'entendait que le début. Il n'entendait que ébé. Le niste passait à la trappe. Je ne sais pas, inventé.
Eh ben non.
Bon, alors merci, Teto. Eh ben dis donc. Eh ben. Thomas, vous avez
le dernier numéro de Schnock est sorti il y a quelques jours. La revue des vieux de 27 à 87 ans. En couverture, c'est Françoise Hardy. Et justement, on sait que Françoise Hardy a chanté une chanson dont les paroles ont été écrites par Patrick Modiano. Étonnez-moi, Benoît.
Étonnez-moi, Benoît.
Voilà, ça commence comme ça. Et après, on apprend dans le dossier autour de Françoise Hardy que Patrick Modiano avait écrit un texte en 66 dans Le Crapouillot pour dénoncer la pop comme une dictature soft.
Le Crapouillot,
la revue Le Crapouillot. Et il disait, nous nous laissons facilement bercer par des camarades concentrationnaires, Sheila, Adamo, Hervé Villard, Sylvie Vartan, voilà. Et quand même, c'est comme...
Elle s'était déchaînée comme François Truffaut à ses débuts dans Art contre le cinéma français.
Voilà, la veine poil à gratter, c'est comme ça qu'il écrit Louis-Henri de la Rochefoucauld qui signe l'article. Et on apprend aussi que Patrick Modiano avait écrit les paroles pour Sheila.
Ah oui, de quelle chanson?
Mais justement, c'est Claude Carrère, le producteur, qui avait finalement refusé ces paroles, qu'il trouvait trop sombres et qu'il les a refusées parce qu'il était question d'une dame qui se jette sous le métro. Donc cette chanson n'a jamais été chantée par Sheila.
Vous êtes très proche de Sheila, vous lui apportez souvent une soupe l'après-midi. Oui. Vous vous rappelez cette chanson?
Oui. Ah, jette-toi sous le métro. Jette-toi sous le métro.
Cher Marie-Vicet.
Surtout écrit par Modiano.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le Libé des écrivains qui est sorti.
Trop, ça rime avec mes... Oui, le Libé des écrivains. D'habitude, c'est qui écrit le Libé d'habitude?
D'habitude, il y a d'autres gens, pas des écrivains. Ah. Et là, c'est des écrivains. D'habitude, c'est des journalistes.
Et donc, demain non plus, ça sera plus eux.
Demain,
c'est
ça aujourd'hui. Sera plus eux. C'est que aujourd'hui.
Voilà, aujourd'hui.
Alors, c'est pas mal. Moi, j'ai lu le début. Là, j'étais en train de lire un article sur la Hongrie.
Il faudrait faire le Libé des cons le lundi. Pardon.
Ce serait pas mal. Alors... Comment est-ce que vous recruteriez
les cons? J'irai tout de suite.
Ben, on envoie les
cons. Vous m'envoyez, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le Libé des écrivains, Marie?
Il y a cet article sur un parti en Hongrie. C'est le parti du chien à deux queues. Et qui se présente pour la première fois aux élections, un parti, une sorte de parti parodique, mais qui ne l'est pas tant que ça. Je suis en train d'apprendre son existence en ce moment même, parce que je suis en train d'essayer de faire ma revue de presse tout en étant avec vous, donc je lisais l'article en même temps. Et donc c'est Nina Yargekov, l'écrivaine, qui écrit cet article sur le parti du chien à deux queues, qui réveille la population avec des happenings.
Mais alors, vous n'avez pas des petits détails? C'est aussi plein que le hébé, ça.
Ils ont créé des attentats à la plante verte, donc ils installent des jardinières dans les arrêts de tramway, une station spatiale en tôle ondulée. L'objectif, c'est de relancer le tourisme spatial. Bon, on comprend un peu le principe, c'est comme le clown qui s'est présenté au Brésil.
On peut parler de candidature humoristique, comme les gens qui voulaient prolonger le boulevard Saint-Michel jusqu'à la mer.
Exactement, sauf qu'ils disent, affirmer que nous sommes un parti humoristique, ce qui aurait pu être vrai il y a quelques années, n'est pas très heureux, car si la forme de notre discours est humoristique, nous attirons l'attention sur des choses sérieuses.
Bien sûr, l'humour n'est pas gratuit. Tito, vous qui vivez...
Moi, je voudrais parler...
Mon petit Tito, je voulais lui demander son avis sur le chien de queue, parce qu'il est rural, il vit dans la campagne.
Oui,
est-ce qu'on croise des chiens de queue vers chez vous, au lac d'Ourthe?
Les chiens ont toujours deux queues.
C'est vrai.
Ouais.
Ah bon, très bien, merci beaucoup. J'ai jamais appris autant de choses que ce matin. Oui, attendez, Atmen.
Non, moi je voulais faire que très concis, c'est pour Jacques Souvent qui est à Toulouse, il y a une affaire qui est terrible. C'est un ténor, Albert Kim, qui n'est pas monté sur scène, le capitaine a envoyé des tweets à tout le monde, parce qu'il était en garde à vue, vu qu'il avait frappé une jeune fille dans une chambre, donc, et il a pris, ça c'est la dépêche du Minique, il a pris donc un ténor du barreau, hein, pour le jeu de mots.
Excellent, oui.
Voilà, il faut le dire.
C'est frais, c'est plein d'esprit.
C'est un humour local.
Oui, c'est remarquable.
C'est écrit par...
Je ne sais pas quelle localité, mais je n'ai pas envie d'y aller.
C'est Toulouse.
Alors, non, donc, ça c'est vous. Non, non, ça c'est vous, ça.
Non, c'est
ça. Regarde-moi. Ça c'est vous, ça.
Oui, c'est moi.
Et donc
la jeune fille était dans un coin, rouée de coups, et le ténor du barreau, dont son avocat, M. Dupont, a dit il a une grosse pression à monter sur scène et à chanter du Victor Hugo dans Hernani. Voilà, c'est ça le
Donc il a le droit de...
Il a le droit de frapper une jeune fille avant d'entrer sur scène. Non, il faut enquêter avec Jacques Souvent.
Il y avait un jeu de mots avec ténor, c'est ça?
Oui, oui, très en retard.
Et oui, j'avais
très... Parce que c'est un chanteur.
Marie Missier.
Et les copains, jetez-vous sous le métro.
Oui, oui, après. Oui, oui.
Marie Missier. Ils ont testé la caisse tunnel.
Qu'est-ce que c'est une caisse tunnel?
Ben, c'est comme une caisse, mais sans caissière. Mais c'est pas comme les trucs où on passe soi-même ses articles. Là, on met sur un tunnel et ça passe.
Parce que c'est pour vérifier qu'il n'y a pas de bombe dans les articles du supermarché, ça passe au rayon X.
Pour se passer des caissières. Et alors, du coup, il y a une voie express géniale du Parisien. Quelle caisse privilégiez-vous? Alors, est-ce que c'est une caisse avant, avec ou sans caissière? Il y a ce beau témoignage de Roger, 61 ans, policier à la retraite. Ça dépend. Si j'ai une petite quantité d'articles, je scanne moi-même dans mon magasin Leclerc. Si j'ai un gros chariot, je me retrouve en combré. Alors, je cherche une caissière. J'essaie de choisir la plus jolie et j'évalue sa rapidité. J'évite celle qui est au téléphone parce qu'il y a un problème avec un produit. Je me débrouille pas mal.
Le vrai problème de Roger, c'est d'être à la retraite beaucoup trop tôt. C'est-à-dire qu'il était à la retraite à 55 ans, comme souvent dans les métiers de l'armée ou de la police, et il se fait chier.
Et il évalue la rapidité.
Il va emmerder les caissiers. Il faut leur foutre la paix. Qu'est-ce que tu fais, Tmen?
Comme les jeunes filles sous le
non,
métro.
Non, mais en fait, c'est pas drôle. C'est de très mauvais goût.
Mais oui, mais c'est Diallo qui l'a écrit, cette chanson.
Alors, donc, c'est bien.
C'est un prix Goncourt.
Merci à tous. On se retrouve tout de suite après avec Sophia Amara.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Sophia Amara, bonjour.
Bonjour.
Votre documentaire sur les traces de l'homme le plus recherché du monde, Al-Baghdadi, passe dimanche soir à 23h sur M6. Est-ce que quand vous faites un documentaire, c'est derrière vous, vous êtes déjà sur le suivant, ou vous attendez avec impatience les réactions des gens qui vont le voir?
Non, toujours. J'ai même une sorte de réaction de rejet vis-à-vis d'un film quand je l'ai terminé. C'est quand même assez étrange, parce que je me suis tellement investie que tout d'un coup, j'ai envie de tout oublier. Comme généralement, je traite de sujets qui sont soit dangereux, soit difficiles à vivre en tant que personne et non pas en tant que journaliste, parce que c'est pour ça qu'on y va, eh bien je suis déjà sur deux autres films.
Donc pas les appels après l'avoir vu,
non, j'y serai très sensible, évidemment, mais non.
On va vous faire retrouver la mémoire, Sophia Amara, parce que ce film, qui passe donc dimanche effectivement sur M6 à 23h, produit par Nova Prod, autour de Al-Baghdadi, est un film passionnant parce que c'est une enquête. Oui. C'est une enquête autour d'un homme, évidemment, qui est un fantôme aussi. Hein.
Oui,
il est plus recherché du monde parce qu'on ne sait pas où il est, et beaucoup de monde le recherche. C'est le patron de Daesh, c'est le patron de l'État islamique, c'est lui qui a fondé l'État islamique. Vous revenez sur cette histoire-là, évidemment, mais au centre, c'est cette personne-là que tout le monde recherche. Sa tête est mise à prix aujourd'hui, cet homme.
Tout à fait. 25 millions de dollars, comme son prédécesseur Ben Laden, 25 millions de dollars. Et aujourd'hui, on peut dire que Ben Laden fait figure d'enfant de cœur par rapport à ce calife de la terreur tel qu'il a été surnommé par les Irakiens eux-mêmes. Pour certains, j'ai rencontré un enquêteur qui a interrogé des dizaines et des dizaines de responsables de Daesh arrêtés par les forces irakiennes. Ils l'ont même surnommé Casper Baghdadi, j'entends, à tel point il est insaisissable. Mmh. Et certains responsables haut responsable de l'État islamique, emprisonné dans le centre où je me trouvais, disait qu'il doutait qu'il ait jamais existé. Il est à ce point insaisissable.
Et c'est effectivement, on voit quelques photos, quelques images. Il y a très peu d'images de cet homme-là. Vous en avez retrouvé des photos inédites. Vous remontez dans son histoire à lui. C'était quelqu'un d'effacé. C'était quelqu'un sans magnétisme, sans aura, qui n'avait pas vraiment de présence, y compris les gens qui étaient avec lui enfermés dans le camp dans lequel vous revenez, qui est aujourd'hui abandonné, le camp de Bouka. Le disent aussi. Et elle aussi, donc il y a une surprise dans son histoire à lui, c'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il monte finalement son propre réseau terroriste et qu'il se proclame, c'est ce qu'il a fait, qui proclame le califat et chef de tous les musulmans.
Oui, tout à fait. Et c'est là justement tout le constat bien triste dont je sors de ce film, plus que d'avoir tenté de brosser le portrait de ce criminel en chef, c'est de me rendre compte que malgré sa personnalité somme toute assez banale, un personnage sans charisme, sans relief, sa propre femme, son ex-femme que j'ai pu rencontrer avec sa fille, dont la ressemblance avec son père est absolument frappante, une petite fille espiègle, elle a 9 ans aujourd'hui, petite fille espiègle, garçon manqué, les cheveux au vent, et qui ne réalise même pas, elle sait que son papa est un monsieur pas très bien, mais elle réalise même pas à quel point l'héritage familial qui est le sien est lourd, sera lourd à porter. Eh bien, le constat le plus terrible durant le tournage de ce film, c'est de se dire comment cet homme si banal, si fallot en fait, a pu fédérer autant de personnes autour de lui. C'est qu'il y a un gros malaise dans la société irakienne, la société syrienne et au-delà dans les sociétés qui ont pu prêter allégeance à ce monstre.
Une des rares images connues d'Abou Bakr al-Baghdadi, c'est cette image dans la mosquée de Mossoul où il fait, où il proclame le califat en 2014. Et vous décryptez ces images-là, c'est des images vidéo, des images qui bougent, qui ont été filmées, c'est l'image de propagande, et vous réussissez à décrypter, à faire décrypter. Vous pouvez nous raconter ça ?
Oui, je pense que c'est une des séquences les plus fortes que j'ai pu vivre pendant le tournage de ce film. Cette jeune femme très courageuse qui a pu fuir le califat et qui nous a décrit, parce que son mari y était dans la mosquée avec sa petite fille, parce que sa petite fille le collait toujours le vendredi parce qu'elle espérait qu'après la prière son papa l'emmènerait acheter des bonbons, une poupée, que sais-je, le vendredi étant jour de week-end en Irak et dans beaucoup de pays de la région. Et elle a décrypté, parce qu'elle est journaliste et donc c'est son métier, elle s'est fait raconter la scène et elle, alors évidemment elle a aussi, et c'est ça qu'il faut pondérer, là il faut pondérer ici, parce qu'elle a envie de dédouaner les habitants de Mossoul, d'avoir tous adhéré à l'État islamique, ce qui est complètement vrai, mais il y a un pourcentage de Mossouliotes qui ont suivi al-Baghdadi, du moins pendant un certain temps, avant de réaliser à quel point cet homme était un criminel.
Parce c'est une prise d'otage, ce
tout
moment-là.
À fait, c'est un coup d'État tel qu'elle le décrit, parce que al-Baghdadi, craignant que le Front al-Nusra qui était le mouvement le plus à l'époque le plus populaire avant la naissance de Daesh, eh bien ne proclame le califat avant lui. Donc il lui a barré la route et il a décrété le califat dans une ville où personne ne le connaissait, où personne ne le soutenait. Il a donné en tout cas l'impression d'une puissance et d'être le chef de toute cette population.
Comment ils se rencontrent? Ce sont des réseaux internet très protégés? Est-ce qu'il y a des rencontres physiques quand même, ou c'est un monde entièrement virtuel tellement ils sont pourchassés de partout?
Qui ça, les combattants de l'État islamique?
Oui, et même lui-même, est-ce qu'il rencontre physiquement al-Baghdadi? Est-ce qu'il rencontre ses troupes physiquement ou
alors,
jamais?
Alors non. Alors nous avons pu avoir un témoignage absolument passionnant. Malheureusement, le film fait 52 minutes. J'aurais pu en faire un 110. On a parlé à des petites filles. Vous avez le témoignage de cette petite enfant esclave violée par al-Baghdadi à 12 ans. En fait, on en a deux. Elles ont été avec la petite esclave entre guillemets américaine qui a été tuée, Kayla, et donc elle raconte exactement la vie de Baghdadi. C'est un homme qui ne sort pas, qui ne combat pas, qui se promène toute la journée dans sa maison avec ses trois femmes, il en a trois aujourd'hui, tous ses enfants, qui passent d'une chambre à coucher à l'autre, qui est complètement obsédé par le sexe, et qui finalement ne combat pas. Et c'est ses lieutenants qui lui rendent visite, qui lui ramènent des esclaves, qui le tiennent au courant des nouvelles du front, une minorité de personnes en qui il a confiance, et quand il y a des bombardements, ils viennent le chercher avec une cagoule et ils le transportent d'un endroit à l'autre.
Une dernière question, Sophie Amara. Votre enquête vous a amené à Bagdad, à Erbil, à Washington aussi. À Bagdad, vous avez été menacé, vous et votre équipe, vous avez travaillé avec Cyril Thomas. Vous avez été menacé là-bas.
Tout à fait. Cyril et moi-même avons été menacés, mon fixeur et le chauffeur. Ils ont reçu des menaces de mort en disant vous abandonnez ces journalistes et faites-les partir. Et en fait, ils nous ont lâchés le jour même en disant écoutez, on ne peut pas prendre cette responsabilité, on vous emmène dans un hôtel sécurisé et nous, on vous lâche. Et pas question, on a été menacés. Impossible de savoir, selon eux, ça peut être des milices, ça peut être des gens proches de Daesh. Et en tout cas, on a dû bouger pendant un temps par mesure de sécurité.
Dans votre documentaire, on apprend quelque chose que je ne savais pas, parce que la prison de Bouka, où tout est né, dans ce que vous appelez l'école de l'islam, la prison de Bouka avec cette sonorité qui a l'air très très orientale, en fait, c'est la Bouka, c'est le nom du premier pompier qui est mort dans les tours.
Tout à fait.
Les Américains à New York, les Américains l'ont baptisé comme ça. J'ai trouvé ça qu'ils arrivent avec des gros symboles comme ça, les Américains, qu'ils installent une espèce de terreur aussi. Le dire, parce qu'on peut dire aussi que ça part d'eux quand même.
Tout à fait. Effectivement, ça part d'abord de 2003 avec avec l'invasion de l'Irak sous de faux prétextes par Bush. Qui a quand même ouvert la boîte de Pandore. Ouais. Et ensuite, avec effectivement ce gros symbole, Bouka, on va se venger. Et en fait, aujourd'hui, on est bien loin derrière. Et Ben Laden semble presque un enfant de cœur par rapport à ce monstre qui est né de ces horreurs-là.
C'est donc un film Al-Baghdadi sur les traces de l'homme le plus recherché du monde. Sophia Amara, s'est diffusé ce dimanche sur M6 à 23h dans Cadex Exclusif, sur production Nova Prod. Merci.
Sophia Amara, vous partez où là ?
Au Liban.
Très bien. Bon voyage.
Merci, je reviendrai.
Avec plaisir. L'énergie.
Merci à vous.
Le reportage, c'est quand vous ouvrez les portes.
Et c'est le rappel des titres de Thierry Paré.
Contrairement à d'habitude, la Tour Eiffel ne s'est pas allumée à minuit en hommage aux victimes de Londres. Un homme qui roulait à vive allure a percuté plusieurs piétons qui empruntaient le pont de Westminster. Il a fini sa course dans une palissade du Parlement britannique. Il est ensuite entré dans le jardin de ce même Parlement pour poignarder à mort un policier avant d'être finalement abattu par la police. Le bilan de cette attaque, il fait état ce matin de 5 morts, dont l'assaillant, et d'une quarantaine de blessés, dont 3 lycéens de Concarneau. La police britannique privilégie pour l'heure la piste du terrorisme islamiste. Les déclarations de patrimoine des 11 candidats à l'élection présidentielle ont été mises en ligne hier soir sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Biens immobiliers, comptes bancaires, véhicules. Ces déclarations sont publiées pour la première fois conformément aux lois sur la transparence adoptées en 2013 après l'affaire Cahuzac. Manuel Valls contrevient gravement au principe de loyauté en ne soutenant pas Benoît Hamon. Ce n'est pas n'importe quel organisme qu'il dit, mais la Haute Autorité de la primaire du PS qui dénonce dans un communiqué le comportement de l'ancien Premier ministre. Selon elle, en ne parrainant pas Benoît Hamon et en critiquant son programme, Manuel Valls est allé à l'encontre de l'esprit primaires.
Ils n'ont pas dit ça exactement, ils ont dit c'est pas gentil, ils ont dit c'est pas bien, faut pas le faire, ils ont dit.
En ne parrainant pas donc Benoît Hamon et en critiquant son programme, Manuel Valls est allé à l'encontre de l'esprit des primaires dont l'engagement principal consiste à soutenir sans réserve le candidat sorti vainqueur. Fin de citation. Amnesty International accuse Washington et Londres d'alimenter la crise humanitaire au Yémen par leur livraison d'armes à l'Arabie Saoudite. L'organisation précise dans un communiqué que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont livré pour plus de 5 milliards de dollars d'armes à l'Arabie Saoudite, un montant 10 fois supérieur à l'aide que ces deux pays ont apportée au Yémen en 2 ans. L'ONU a reçu moins d'un tiers des fonds nécessaires pour éviter une famine en Somalie. Une réunion du Conseil de sécurité consacrée à cette crise alimentaire est programmée aujourd'hui. Les ventes mondiales de billets de cinéma ont atteint un nouveau record l'an dernier, 38,6 milliards de dollars. Et puis c'est la journée mondiale de la météorologie ce jeudi qui commémore l'entrée en vigueur en 1950 de la convention qui a institué l'Organisation météorologique mondiale. Bah justement, l'occasion de parler de la météo avec Tito. Aujourd'hui, il va pleuvoir partout, quasiment partout.
Arrêtez de vendre la mèche, c'est pas gentil. Tito, déjà sa rubrique n'est pas longue.
Mais
déjà,
je suis
vous
très
dites la chute.
Au contraire.
Non, vous avez un mauvais fond.
Non, pas du tout.
Si, bien sûr. Et vous avez une collection d'uniformes assez étranges chez vous que vous mettez pour des jeux avec votre femme. Enfin, on y reviendra. Tito, on est sur une Tito, une météo de musicalement comment musical.
C'est un petit hommage à mes copains Philippe et Francis.
Ah bah, c'est des private jokes encore. On est.
Ils doivent être au milieu de leur vigne.
Moi, je n'étais rien.
Hey, 2 à 12 à Bordeaux, 1 à 9 à Poitiers, 7 à 17 à Reims, 1 à 10 à Angers, Laval, 9 à 10, 9 à 16 Montpellier, 8 à 18 à Corté. Ça va jusque-là?
C'est superbe.
11 à 19 à Marseille, 6 à 16 à Beauvais, Avignon, 10 à 16, de 10 dans le Nantais, Stéphanois, 5 à 13, et de 13 en Agenais, 4 à 14, à Paris,
Jacques souvent à Toulouse.
Vous dites ça, c'est quoi? Pourquoi j'ai un accent? Oui, l'accent parisien, quoi. Enfin, voilà. Comment ça? C'est, avec les uns, les pains. Un accent un peu pointu. Par exemple, pourquoi j'ai. Comment vous avez repéré? Je sais pas, à l'accoutrement, les cheveux aussi. Les cheveux, j'ai trouvé que les Parisiens avaient des cheveux très serrés. Peut-être la pollution, je sais.
C'est à cause de ma teinture, j'ai fait une teinture ce matin.
Ah, mais c'est ça, oui, voilà. Alors ici, on se peine pas trop à parler.
Donc je suis dans un bureau de tabac, je suis rentré parce que à l'entrée de la
à l'entrée, il y avait un gros panneau interdit aux moins de 18 ans qui me faisait penser à autre chose.
Et voilà. Non, alors ça me fait penser exactement à ce que ça doit faire penser, c'est-à-dire interdiction du tabac et des jeux pour les moins de 18 ans. Voilà.
Ah, c'est ça.
Et ouais, hélas.
Après, on peut y aller.
Après, on peut y aller, oui, c'est open bar, quoi. Mais pour le reste, non. Voilà.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Dites-moi, alors, le cheveu parisien, il y a comme ça des... Il y a des... Sur le corps...
Des micro, de la micropollution, j'ai l'impression. Vous avez tous le cheveu fin, un peu de cerne. Ici, c'est plus soyeux. J'ai l'impression. Hein.
Mais c'est à l'œil ou c'est au toucher?
Alors, pour l'instant, c'est à l'œil. Le toucher, je touche tellement de gens déjà toute la journée que... Non, ça, les cheveux, je vais pas m'y mettre.
Parce que le métier de dans le tabac, on est beaucoup dans le contact aussi?
Un peu, ouais. C'est un peu le but, en fait.
Ou bien vous avez une approche mêlée, un peu, comme on est en terre d'Ovalie, vous avez peut-être une approche un peu mêlée dans la vente de tabac. Non, ça moulonne
Non, ça, je l'ai vu il y a longtemps, quand j'étais plus jeune sur un terrain. Mais non, aujourd'hui, c'est le contact, et ici, j'espère le sourire. Ouais.
Eh bien, on le sent, ce sourire, monsieur. Dites-moi, alors, à part le cheveu et l'accent pointu, à quoi vous pouvez reconnaître le Parisien?
Déjà, il a le micro entre les têtes, donc c'est déjà bizarre, hein, une première impression. Comme ça.
Dès qu'il y a un mec qui a un micro entre les mains, c'est un Parisien.
En général, oui.
Et le Toulousain.
C'est le journal qu'on lit, vous savez, c'est très rural.
Vous lisez quoi, vous? C'est La Dépêche,
moi,
à Toulouse?
La Dépêche, ouais. La Dépêche.
Et vous commencez
même
par...
Même si c'est très mal écrit, je tiens à préciser.
Ah bon?
Même si c'est très mal écrit, très mal orthographié, mais je lis La Dépêche.
C'est l'Empire Bellé, La Dépêche, c'est ça?
C'est un peu ça.
Et alors, vous commencez par les pages générales ou par les pages locales?
Non, moi, fait divers, direct.
Fait divers.
Je sais où j'en suis. S'il y a des collègues qui ont eu des soucis ou pas la veille, si, voilà. Mais en général, ça va assez bien sur Toulouse quand même.
Il n'y a pas beaucoup d'attaques de buralistes sur Toulouse
non,
en ce moment?
Non, ça va.
C'est
ça,
calme. Et donc, il y a eu quoi ce matin? Vous avez eu le temps de voir dans La Dépêche? Faites-nous un peu journaliste pour nous, là.
Non, parce que je viens d'ouvrir, justement, votre collègue m'est tombé dessus. Et d'ailleurs, j'ai une cliente qui attend.
Allez, on vous laisse avec la cliente.
Mais,
bonne journée, monsieur. Et renvoyez l'homme aux cheveux parisiens un peu.
Oui, je vous le renvoie. Merci, au revoir.
Salut, belle journée.
Nova. De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi?
Mais j'y vais à pied, j'habite à côté.
Oh, ouais. Peut-être qu'on fera des gestes. J'explique à Thomas Piketty comment faire passer sa parole, comment passer de la profondeur au superficiel en s'approchant ou pas du micro. Voilà, c'était ce qui se passait hors antenne pendant ce morceau musical. Vous y avez droit aussi.
Ah oui, il faut partager. Alors, il se trouve que samedi, c'est le 25 mars, et c'est l'anniversaire de l'Europe. En tout cas, on célèbre la signature, les 60 ans de la signature du traité de Rome, qui est un peu fondé, ce qui s'appelait la CE à l'époque, l'ancêtre de l'Union européenne. Et puis, on peut se poser la question, justement. Alors, je crois que les chefs d'État et le gouvernement vont se retrouver à Rome pour l'occasion, mais en dehors de ça, comment aujourd'hui parler d'Europe sans que être contaminé par ce sentiment d'amertume, grosso modo, qui est ressenti par pas mal de monde, au moment où ce qu'on appelle les démocraties illibérales sont en place en Pologne, par exemple, ou en Hongrie, qui sont des régimes plutôt durs, et surtout dont les dirigeants sont des eurosceptiques affirmés. Juste quelques mois après le Brexit, on a appris que le dispositif de Brexit allait commencer pour la Grande-Bretagne à la fin du mois. Et puis est arrivé un livre qui s'intitule « Pour un traité de démocratisation de l'Europe ». Voilà une belle idée, une belle promesse. En tout cas, cette idée de démocratisation de l'Europe, c'est un livre qui est co-signé par Stéphanie Hennette, Guillaume Sacriste, Antoine Vaucher et Thomas Piketty, qui est avec nous. Donc, bonjour.
Ah, c'est là où vous vouliez en venir.
Oui, tout ça. Il y a une petite réflexion. Effectivement, donc Thomas Piketty, vous êtes professeur, directeur d'études à l'École d'études en sciences sociales. Vous êtes professeur à l'École d'économie de Paris. Et puis, vous avez signé le best-seller de l'économie de ces dernières années, qui est Le Capital au XXIe siècle. Est-ce que ce petit livre, qui est un programme, qui est aussi les bases d'un traité, on va en parler, possible, est-ce que c'est une manière de réespérer dans l'Europe?
Oui, c'est de montrer qu'on peut changer l'Europe et qu'il faut que chacun, que ça appartient à tout le monde. C'est-à-dire, si on laisse ça aux autres, il risque de ne pas se passer grand-chose. Donc, ce qu'on veut montrer dans ce projet de traité de démocratisation de l'Europe, c'est d'ailleurs d'abord d'expliquer comment fonctionne l'Europe actuelle et comment un traité, finalement, pas si difficile que ça à adopter, pourrait profondément changer les choses, démocratiser les choses. Donc, évidemment, il n'y a pas de traité idéal, providentiel, il n'y a pas d'assemblée démocratique qui va tout régler comme par enchantement, mais ça peut faire quand même une grosse différence. Donc, ce projet, il n'est pas parfait, il est fait pour en discuter, chaque article peut être amélioré. On le met sur la table pour que les gens puissent en discuter. Donc d'abord que les candidats à la présidentielle aussi puissent dire comment ils comptent l'améliorer, ou si vraiment ils veulent tout mettre à la poubelle, ce qui est aussi possible, mais je pense quand même qu'il y a deux, trois trucs à garder, mais au moins qu'ils nous disent par quoi ils le remplacent. Puis surtout que tous les citoyens s'approprie ce débat. Parce que si on refuse de débattre de l'organisation de la démocratie, ceux qui gagneront dans tout ça, c'est ceux qui n'ont pas besoin de la démocratie, qui n'ont pas besoin d'une assemblée démocratique pour faire prévaloir leurs intérêts. Et donc, il faut. Voilà, et c'est pas un débat technique. La démocratie, c'est pas un truc immanent comme ça. Enfin, je veux dire, se mettre dans une assemblée et hop, ça y est, c'est parti. Ça s'organise, il faut des assemblées. Donc, là, il y a une vraie rupture par rapport à tous les traités précédents qui étaient des traités, disons, technocratiques, traités en 2011-2012 en particulier. On dit tout le temps, Lisbonne c'était un peu avant, mais en 2011-2012, il y a deux grands traités budgétaires, mais très technocratiques, qui sont des vrais dénis de démocratie, qui créent ce qu'on appelle le mécanisme européen de stabilité, puis le nouveau traité sur la stabilité budgétaire en Europe. Tout ça, on les fait dans l'urgence, au nom de l'urgence financière, en ignorant complètement la démocratie. Là, l'idée, c'est que les pays de la zone euro qui le souhaitent, et il faut, le point important qu'on reprend pour le coup des traités de 2011-2012, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre que tout le monde soit d'accord. C'est-à-dire que concrètement, actuellement, en zone euro, il y a quatre pays, France, Allemagne, Italie, Espagne, qui représentent 76% de la population et du produit intérieur brut de la zone euro. Si ces quatre-là arrivent à se mettre d'accord, c'est possible d'avancer. Il y en aura plein d'autres qui seront d'accord, mais ce n'est pas parce que Luxembourg ou l'Irlande veut continuer à être un paradis fiscal qu'on doit ne rien faire. Il faut pouvoir avancer. Donc ce qui est prévu, article 20 ou 21, je ne sais plus, du traité, c'est une entrée en vigueur dès lors que la moitié des pays regroupant au moins 70% de la population l'auront ratifié. Et la grande nouveauté, c'est que la France, à travers ce traité, puisque ce projet est repris, soutenu par Benoît Hamon, c'est la première fois qu'on a un candidat à l'élection présidentielle française qui s'engage vis-à-vis de ses partenaires sur un projet d'union parlementaire et politique aussi précis. Jusqu'ici, la France s'est beaucoup plaint. La France aime bien se plaindre de l'Europe, de Bruxelles, de l'Allemagne, du monde entier parfois, mais en termes de propositions concrètes de changement et de refondation plus démocratique et plus sociale de l'Europe, on n'avait pas vu grand-chose. Donc là, c'est vraiment une nouveauté qui, je pense, après, donne du pouvoir de négociation, permet aussi de s'affranchir d'un certain nombre de règles budgétaires absurdes en attendant que ceci soit adopté, parce que justement, on montre que le but, c'est d'abord de transformer positivement les choses.
Alors, par exemple, justement, qu'est-ce qui vous semble pas démocratique dans le fonctionnement de l'Europe? Qu'est-ce qu'on peut arranger? Qu'est-ce qui serait, vous pouvez nous expliquer, qui serait simple
très,
pour
très,
nous?
Très concrètement, le cœur des décisions aujourd'hui concernant les pays de la zone euro se prend par ce qu'on appelle l'Eurogroupe, qui est le Conseil des ministres des Finances. Donc vous avez le ministre des Finances français, allemand, italien. Ce petit monde se réunit à huis clos, donc il n'y a pas de délibération publique. À la fin, c'est des décisions soit à l'unanimité, soit à l'espèce de rapport de force politique. En principe, on peut avoir des majorités qualifiées, mais en pratique, les deux plus grands pays, en particulier France et Allemagne, ont un droit de veto sur tout et doivent se mettre d'accord à huis clos sur tout. Le résultat, c'est quoi? C'est, dans la plupart des cas, soit des mauvaises décisions, soit une très grande inertie et une absence de décision. C'est-à-dire qu'ils vous annoncent au milieu de la nuit qu'ils ont sauvé l'Europe pour la 27e fois depuis 10 ans, et on se rend compte dans la journée qui suit qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils ont décidé. On ne sait pas non plus nous-mêmes ce dont ils ont débattu, parce que tout se passe à huis clos. Et notre conviction, c'est que ce n'est pas le problème, ce n'est pas les personnes, c'est pas que Sapin ou Chobleu, le ministre allemand des Finances, soient coupables. Bon, ils ne sont pas forcément super, mais comme nous tous autour de la table, hein, je veux dire, ils ne sont pas pires que les autres. C'est juste que l'institution pousse à d'abord une confrontation pays contre pays. Parce que quand vous avez une personne, Chobleu, pour représenter 82 millions d'Allemands, une personne, Sapin, pour représenter 67 millions de Français, vous ne pouvez pas être mis en minorité. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas publiquement, vous ne pouvez pas revenir à la maison et dire, bon, pas de chance, cette fois-ci, j'étais dans la minorité, le coup suivant, je serai dans la majorité. Donc nous, on propose quelque chose de très différent.
Ce que vous dites aussi, Thomas Piketty, et vos co-auteurs, c'est qu'il n'y a pas de contrôle parlementaire, il n'y a pas de contrôle d'élus sur ce qui se passe là. Le Parlement européen n'a pas de contrôle sur l'Eurogroupe.
C'est cet Eurogroupe qui est censé, effectivement, l'instance collégiale, quasi-parlementaire, mais évidemment, ce n'est pas du tout un Parlement, parce que quand vous avez une personne pour représenter 80 millions d'individus et des délibérations à huis clos, ça peut pas faire de la délibération parlementaire majoritaire. Donc nous, on propose de changer complètement les choses. Donc l'article central du traité, c'est vraiment le cœur du traité, c'est de créer une assemblée démocratique de la zone euro, dans lequel chaque pays serait représenté par des députés en proportion de sa population. Donc, en s'appuyant principalement sur des députés issus des parlements nationaux, et je vais revenir là-dessus, pour 80% des membres et pour 20% de représentants de députés du Parlement européen. Donc, prenons les députés nationaux. Imaginons qu'on ait 100 membres issus des parlements nationaux dans cette assemblée démocratique de la zone euro. L'Allemagne, c'est 24% de la population de la zone euro. Elle aurait donc 24 sièges en proportion des différents groupes politiques actuellement présents au Bundestag, donc ça donnerait 12 pour la droite, CDU-CSU, 8 pour le SPD, 2 pour les Grünen, 2 pour Die Linke. La France, là, je finis juste la description. La France, c'est 20% de la population de la zone euro, elle aurait donc 20 sièges, pareil, répartis entre les groupes politiques. Italie, 18. Espagne, 14. Donc, à la fin, on aurait, sur les 100 sièges, on aurait 76 pour les 4 pays, je vous ai indiqué. Si on fait des simulations, on se rend compte qu'en fait, ce serait très équilibré, ça pencherait plutôt assez nettement à gauche, mais surtout, au-delà de la gauche et de la droite, bon, déjà, toutes les gauches et les droites ne se ressemblent pas, donc la droite allemande, c'est 12 sièges sur 100, la droite espagnole, italienne, française, sur les questions de l'austérité, de la restructuration de la dette grecque, ont des positions quand même un peu moins extrêmes, et surtout, au-delà des différents groupes, ça permettrait d'avoir des décisions majoritaires qui ne seraient pas pays contre pays, parce qu'en Allemagne, tout le monde n'a pas la même opinion, y compris d'ailleurs à l'intérieur de la droite allemande.
Est-ce que ce n'est pas une usine à gaz supplémentaire, à la fois ce traité, cette assemblée?
Moi, je trouve c'est au contraire d'une grande simplicité,
oui, et surtout, c'est simple, ça s'appelle
la démocratie. Oui, mais ce qui existe, c'est ce que je vous ai décrit, c'est le déni de la démocratie.
Et donc, en fait, aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est que cette réunion des 8 ministres des Finances a plus d'influence sur la vie des Européens, même la vie quotidienne, que le Parlement démocratiquement élu, le Parlement européen, que les commissions. On a l'impression qu'il y a déjà énormément de structures élues, choisies ou
cooptées. Le Parlement européen n'a aucun pouvoir sur ces décisions budgétaires, financières qui sont prises par l'Eurogroupe dans la zone euro. Et pour qu'on puisse avoir aujourd'hui une vraie parlementarisation de l'Europe, on a justement besoin d'impliquer les députés nationaux. Et ça, c'est le point sur lequel je voudrais insister. C'est que si vous avez uniquement le Parlement européen et si vous laissez complètement les députés nationaux de côté, en fait, on ne peut pas y arriver. Pourquoi ? Parce que le vote de l'impôt, le vote du budget, la capacité d'engager financièrement les contribuables nationaux et son pays, c'est vraiment le cœur du Parlement national. Et si on n'implique pas les députés nationaux dans ce processus, alors on n'arrivera jamais à, par exemple, une des propositions phares de ce traité, c'est un article qui délègue entièrement à cette Assemblée démocratique de la zone euro le vote de l'assiette et du taux de l'impôt sur les sociétés. Donc c'est une vraie délégation de souveraineté fiscale, complètement assumée, qui est parfaitement justifiée. Je pense que l'opinion est prête pour ça, parce que les gens ont compris que la souveraineté nationale en matière d'impôt sur les grandes sociétés, ça consiste surtout à se faire avoir par toutes les multinationales. Donc c'est une délégation de souveraineté qu'on assume, mais cet impôt, il est actuellement de l'ordre de la souveraineté des parlements nationaux. Il faut, si on veut les contourner complètement, ça ne marchera pas. J'ajoute que cette idée qu'on défend aujourd'hui, qu'on reprend, on n'a rien
inventé. Qui ne remplace pas le Parlement européen,
Qui ne remplace pas le Parlement européen. Oui. Il y a deux différences. La première différence, c'est que tous les pays de l'Union européenne ne sont pas dans la zone euro, et peut-être même à l'intérieur de la zone euro, certains pays ne souhaiteront pas se soumettre comme ça à cette loi de la majorité, en matière fiscale notamment. Donc ce sera un cercle plus réduit. Peut-être qu'un jour les deux cercles se rencontreront, et moi j'espère évidemment que tous les pays de l'Union européenne, et peut-être même le Royaume-Uni un jour reviendra, qui sait, hein, tout est possible. Et dans ce cas-là, cette assemblée de la zone euro deviendra une véritable assemblée européenne qui représenterait les pays à travers leurs parlements nationaux, mais aussi avec 20% de membres issus du Parlement européen, qui lui est élu directement par les citoyens. Cette assemblée, d'une certaine façon, est plus démocratique parce qu'elle est aussi plus en proportion de la population. Un des problèmes du Parlement européen, et les Allemands lui font beaucoup ce reproche, notamment la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, c'est que l'électeur allemand, ou français d'ailleurs, est beaucoup moins représenté que l'électeur chypriote, malte. Donc on est beaucoup plus près d'une représentation de territoire que d'une représentation un homme, une voix, ce qui pose quand même des problèmes.
Thomas Piketty, donc, dans ce livre, parce que c'est un livre, ce projet de traité de démocratisation de l'Europe, cette présentation qui est parue au Seuil, on entend aussi, d'abord qu'il a été saisi par Benoît Hamon, vous faites partie de son équipe de campagne. Est-ce que... Vous ne l'avez pas dit ?
Non, ça me choque énormément.
Oui. Mais est-ce que Martin Schulz, par exemple, qui dirige maintenant le SPD, qui va être le candidat face à Angela Merkel, très vraisemblablement en Allemagne, est-ce que, par exemple, vous lui envoyez aussi ? Est-ce que vous
Bien
en
sûr,
discutez ?
Oui, ouais. le débat est engagé partout en Europe. On était avec Benoît Hamon à Bruxelles mardi. Très grand meeting, 3000 personnes, beaucoup de ferveur.
Des applaudissements.
Et ça va très au-delà du parti
socialiste. Les gens criaient Piketty, Piketty. Oui.
Non, mais non. Vous savez, le but, c'est de parler de l'Europe et de parler du fond. Si on y arrivait un peu pendant cette campagne, ce serait bien. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que non seulement le Parti socialiste belge, qui était représenté avec Elio Di Rupo, Paul Magnet, soutiennent ce projet, mais surtout, encore plus que ça, quand on va au Parlement européen, quand on voit des députés de toutes les tendances, on voit une vraie volonté de partir de ce projet. Vous savez, tout le monde est très heureux que la France fasse enfin une proposition. Parce que jusqu'ici, à nouveau, la France se plaint beaucoup. Vous regardez les programmes des autres candidats sur l'Europe, ça tient en deux lignes. Mmh. On ne sait pas, en fait, on ne sait rien de ce qu'ils proposent. Là, le fait de mettre sur la table un document aussi précis... Alors, je précise que le traité de démocratisation de la gouvernance de la zone euro fait 12 pages. C'est une langue juridique qu'on a essayé de rendre la plus simple possible, mais c'est quand même un traité juridique. Il est disponible en ligne. Ce petit bouquin en fait 90, il coûte à peu près son coût d'impression 7 euros, et il contient lui une explication traité par traité. Donc c'est d'abord quelque chose de pédagogique, c'est-à-dire le but c'est pas de dire regardez on a un truc génial, il n'y a plus qu'à signer en bas à droite, c'est plutôt venez participer à la discussion, appropriez-vous ces questions.
Mais justement c'est pourquoi pas, on fait un livre plutôt qu'une note, c'est justement ça, la pression peut venir des citoyens et des lecteurs.
Et puis surtout pour l'améliorer, parce que franchement ce truc on y a bossé, mais on
je vais lire, je vais voir si je comprends.
Je veux que
il n'y a pas de faute d'orthographe.
Je veux que chacun s'en saisisse. On explique article par article, parce que ces questions n'avanceront que quand les gens s'en saisiront. C'est-à-dire que il faut pas croire, voilà, il y a pas comme ça quelque part. On a les responsables politiques qu'on mérite tous.
Il y a un côté wiki traité alors dans ce.
Oui, je vais le lire. Et là, il y a celui. C'est l'exemplaire qui est dédicacé à François Asselineau. Bon François, tu me manques, rejoins-nous. Thomas Piketty, tu vas être obligé de vous interrompre parce qu'on va avoir le journal. On s'est approché de la compréhension et du fond. Mais c'est vrai que les questions fiscales sont très difficiles. Ce qui est d'où après les paranoïas, l'impression que tout ça est dirigé par des gens, par des choses sombres. Quand vous parlez de ces 7 euros, cette réunion, ces 8 députés des finances européens, c'est vrai que tout à coup, on ne se rend pas compte de ça.
C'est vrai, non, c'est vrai, mais c'est pour ça qu'il faut il faut se l'approprier. Et voilà, j'espère que ça va contribuer et que vous aussi.
Merci à vous.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi. Non, là, pardon, mais je suis pressée, là.
Je suis pressée. Bon, écoutez, alors, il y a trop de trucs, de machin. Bonjour, Thierry Paresse, c'est le journal de 8h. Mais il est 8h02, je n'arrive pas à le faire à l'heure.
Très, très bien dit le bonjour, c'est rebonjour.
Merci, Edmond.
Le bilan de l'attaque de Londres s'est alourdi cette nuit. Il s'élève désormais à 5 morts, dont l'assaillant et une quarantaine de blessés. En outre, la police britannique privilégie à présent la piste du terrorisme islamiste. Un homme, donc, qui roulait à vive allure, a donc percuté d'abord plusieurs pieds qui empruntait le pont de Westminster. Il s'est ensuite encastré dans une palissade du Parlement britannique, puis il a réussi à entrer dans le jardin de ce même Parlement pour y poignarder à mort un policier avant d'être finalement abattu. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a mis en ligne hier en soirée les déclarations de patrimoine des 11 candidats à l'élection présidentielle, biens immobiliers, comptes bancaires, véhicules, enfin voilà, différents objets. Ces déclarations sont publiées pour la première fois conformément aux lois sur la transparence adoptées en 2013 après l'affaire Cahuzac. La Haute Autorité de la primaire du PS dénonce, elle, dans un communiqué, le comportement de Manuel Valls. Selon elle, en ne parrainant pas Benoît Hamon et en critiquant son programme, l'ancien Premier ministre est allé à l'encontre de l'esprit des primaires, dont l'engagement principal consiste à soutenir sans réserve le candidat sorti vainqueur. Amnesty International accuse Washington et Londres d'alimenter la crise humanitaire au Yémen par leur livraison d'armes à l'Arabie Saoudite. L'organisation précise que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont livré pour plus de 5 milliards de dollars d'armes à l'Arabie Saoudite, un montant 10 fois supérieur à l'aide que ces deux pays ont apportée au Yémen en 2 ans. L'ONU a reçu moins d'un tiers des fonds nécessaires pour éviter une famine en Somalie. La situation est extrêmement grave. Une réunion du Conseil de sécurité consacrée à cette crise alimentaire est programmée aujourd'hui. L'ONU estime que plus de la moitié des 6,2 millions de Somaliens ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence et parmi lesquels plus de 350 000 enfants qui seraient eux en situation de malnutrition dite sévère. La Corée du Nord pourrait être à l'origine du vol de 81 millions de dollars sur un compte que la Banque centrale du Bangladesh détenait auprès de la Réserve fédérale de New York. C'est ce qu'affirme en tout cas le Wall Street Journal du jour. Deux scientifiques affirment avoir découvert des traces de la croûte.
Attention, si tu dis découvra.
Ça veut rien dire.
Là, il y a Violette qui a 11 ans qui vient dire son poème. Si tu commences à lui dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec le mot découvrir,
c'est
le
vrai.
Verbe, non.
C'est vrai. En même temps, après, c'est de la poésie. Deux scientifiques affirment avoir découvert des traces de la première croûte terrestre de la Terre. Donc, ça remonte à plus de 4
faut
milliards
gratter,
d'années.
Pas la gratter, la croûte terrestre.
Sur une plage canadienne, donc ils ont découvert ça. En fait, c'est un caillou qui ressemble à tous les autres.
Oui,
il est gris, il est assez uniforme.
C'est quoi, monsieur, un caillou c'est mon gros caillou, la Terre.
Il faut gratter.
Voilà, il a rien.
C'est un gros caillou.
Sauf qu'à l'intérieur, il y a un truc particulier qui est le samarium 146, qui est exclusivement présent dans la première version de la croûte terrestre.
Alors, Matman, il en a du samarium 146. Vous en aviez un moment.
J'en prends tous les matins.
Vous en aviez chez vous.
J'en avais chez moi.
Le petit placard à droite, là.
Voilà, avec le mercurochrome.
Oui,
c'est pour ça qu'il y avait. Il y avait de l'extril, de la brosse à dents, du samarium.
C'est ça, c'est pour ça que tu as la peau.
Mon gros caillou, mais ton œil.
Sors du journal. Sors de là. Attendez, dans le journal, il y a une tradition. Il y a une tradition, c'est la toute petite. Petite pause au milieu du journal de Thierry Paré.
Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser avec un personnel de merde qui m'a vraiment mis dans la merde.
Reprise du journal.
Voilà, c'est la journée mondiale de la météorologie aujourd'hui. Pour l'occasion, chaque 23 mars, l'organisme délivre les conclusions de son rapport annuel sur le climat. Alors cette année, tous les voyants sont au rouge. L'an dernier, la température moyenne a été supérieure à 1,1 degré par rapport à la moyenne de l'époque pré-industrielle. Certains chercheurs avouent que ces changements sont tellement énormes que les scientifiques touchent désormais les limites des connaissances du système climatique. Selon eux, la planète entre en territoire inconnu.
La France a peur. Tiens, attends, Rudy, viens, Rudy.
Il y a un groupe qui arrive, il paraît que c'est...
Il y en a deux.
Il y a un groupe, alors les jeunes femmes adorent ce groupe. Bonjour. Qui vient tout à l'heure. Qui est le groupe qui va faire le live?
Papouze.
Ah, les Papouze, il y a un délire, il y a des jeunes filles qui arrivent, qui sont devant Nova en train de hurler, de gratter le mur et d'essayer de manger des tuiles.
Oui, mais il y a un monde fou quand même.
C'est ça, c'est changer des places dans la nuit, sur les réseaux sociaux, je peux venir, je peux les voir.
C'est complet.
On vous l'a dit, c'est pas la peine.
C'est complet, il n'y a plus de place.
Alors qu'est-ce qu'on fait là? Alors attendez, il y a tout un truc. On l'a entendu ta météo, on va pas faire une météo tout de suite.
Non, pas tout de suite, 8h30.
Moi je voulais parler de...
Oui, Atmen.
Moi dans Le Parisien, il y a aussi la vie des comédiens, parce que je suis un comédien, et des gens un peu tristes, et qui disent, Christelle Labotte qui joue dans Section de Recherche, qui dit, j'ai préféré partir qu'être malheureuse.
Quoi?
Oui, voilà, elle jouait la scientifique qui faisait les autopsies, et son rôle se...
Et pourquoi elle aurait été malheureuse dans la série?
Parce qu'elle avait qu'une réplique par épisode, elle disait, je vous tiens au courant après l'autopsie. Donc elle se faisait chier.
Oui,
elle dit qu'elle a 50 ans, que son rapport avec Xavier Deluc n'est plus aussi proche qu'avant, et qu'on l'a remplacée par des petites filles de 25 ans. Bon. Alors elle a quitté la série, maintenant elle marche, elle lit, elle voit des amis, elle va au théâtre. Voilà.
J'ai adoré cette info parce qu'elle ne m'amène rien.
Si, mais elle est précise.
Vous m'avez meublé l'oreille. Ouais. Et ça, vous avez installé un petit divan au fond de mon oreille.
Je suis le Conforama de votre oreille, je vous meuble.
Violette, viens t'asseoir pour ton poème de tout à l'heure. Et peut-être qu'on parle un tout petit peu, Eugénie, qui me fait signe oui ou non, avec Jacques Souvent dans les rues de Toulouse. Non, pas tout de suite. Donc, le dispositif est clair. Est-ce que je reçois Violette tout de suite pour son poème?
Oui.
J'ai envie de dire oui. Bonjour Violette. Bonjour. On ne s'est même pas parlé avant, rien. Viens plus près du micro. Tu es venue avec tes deux parents qui sont là?
Non.
Qui sont les gens qui sont avec toi? Ces gens que tu as croisés dans la rue?
Mon père.
Oui.
Et sa petite copine.
Ah, la petite copine, j'aime bien les mots. Pourquoi? Quelle est la différence entre amoureuse, fiancée et petite copine?
C'est pareil.
Quel mot tu préfères? C'est toi qui as choisi le mot petite copine ou c'est lui qui la présente comme ça?
Non, c'est moi.
C'est toi, tu dis sa petite copine. Et Atmen, vous avez une petite copine?
Non, j'ai une femme.
Ah pardon, je vous prie de m'excuser. Et Violette, toi tu es une des les plus grandes filles qui vient nous dire un poème parce que tu as 11 ans.
Oui.
Et à 11 ans, tu es en CM2 ou...
Sixième.
Ah, attends, mais alors en sixième, on a cours à quelle heure? T'as cours à quelle heure aujourd'hui?
8h25,
loin d'ici?
Oui.
Et ma Tito va te faire un mot. Hein, vous faites un petit mot pour la...
Oui, oui, t'avais
cours
de quoi? Hein.
T'as cours de quoi ce matin?
De musique.
Ah bon? C'est le solfège ou tu joues d'un instrument?
C'est du chant.
Tu chantes?
Oui.
Mais c'est parce que c'est une sorte de musique-étude que tu fais? Tu te spécialises en chant?
Oui.
Tu veux, par exemple, vous allez travailler sur quoi ce matin?
Des chants qu'on va faire au théâtre.
Ah, vous faites chant et théâtre et ça va être quoi?
À la fin de l'année, on va présenter nos chants au théâtre.
Est-ce que je peux juste écouter un tout petit peu, commencer? Alors ce nom qui veut dire insiste un tout petit peu ou pas du tout?
Non,
t'as pas envie du tout, je comprends. Parce que Atmen, lui, il a envie, on ne lui demande pas.
Jamais.
La vie, c'est injuste, parce que toi, on aimerait t'écouter et tu ne veux pas. Voilà. Et Atmen aimerait chanter et on ne veut pas l'écouter.
Voilà. La vie est mal faite.
La vie est cruelle. Tu as un poème alors?
Oui.
C'est quoi le poème que tu as apporté?
Le temps des contes.
Le temps des contes, eh bien, c'est de qui?
François Fillon.
Oh, c'est très drôle, vraiment. Ça, c'est au Théâtre des Deux Ânes en ce moment. C'est bien, ça, c'est vraiment... Non, c'est de qui?
De Georges et Jean.
Eh bien, on écoute avec grand plaisir, Violette, le temps des contes. Papa, arrêtez de venir prendre des photos. Vous nous déconcentrez. Ah, je te jure, ton père, hein. On ne peut pas se concentrer avec les photos. Elle doit être concentrée sur le poème. Vas-y, ma chère Violette.
S'il était encore une fois, nous partirions à l'aventure. Moi, je serais Robin des Bois, et toi, tu mettrais ton armure. Nous irions sur nos alezans, animaux de belle prestance. Nous serions armés jusqu'aux dents, parcourant les forêts immenses. S'il était encore une fois, vers le château des Contes Bleus, je serais le beau-fils du roi, et toi, tu cracherais le feu. Nous irions trouver Blanche-Neige dormant dans son cercueil de verre. Nous pourrions croiser le cortège de Marlboro revenant de guerre. S'il était encore une fois, au balcon de Monsieur Perrault, nous irons voir ma mère loi qui me prendrait pour un héros. Et je dirais à ces gens-là, moi qui suis allé dans la lune, moi qui vois ce qu'on ne voit pas, quand la télé le soir s'allume, je vous le dis, vous faites vos bêtes, vous encore rêvez mes copains, et mon grand-père le poète quand nous marchons main dans la main. Georges Jean.
Très joli. Tu mets beaucoup d'émotions, hein. Je comprends que tu as envie de faire du théâtre, que tu mets de l'émotion dans tout ce que tu fais. Alors comme tu fais du théâtre, on va retravailler le début, on va essayer de le faire avec plus d'héroïsme. Quels sont les premiers mots?
s'il était encore une fois, nous partirions à l'aventure.
Alors, tu vois, essayons de partir. Viens, on se lève tous les deux. Viens, levons-nous avec Ahmed Ghalif, ouais, aussi, qui a fait le conservatoire. Donc, s'il était encore une fois, nous partirions à l'aventure, c'est ça? Je crois qu'on peut y aller plus... tu vois, il faut donner envie de partir à l'aventure. Vas-y, viens avec moi. S'il était encore une fois, tu vois, vas-y, donne-moi envie de partir à l'aventure, vas-y.
S'il était encore une fois, nous partirions à l'aventure.
Voilà, c'était parfait sur le partirions, parce que tu as bien insisté sur le P qui me donne envie de partir. Partirions.
Toujours le verbe, il faut taper sur le verbe.
Et l'aventure, fais-moi, étends-moi ce mot pour tout à coup que je la vois dans le mot, l'aventure. On recommence. S'il était.
S'il était encore une fois, nous partirions à l'aventure.
Superbe, c'est superbe, parfait, bravo, voilà. Et tout le reste, ça. Merci Violette, grosse bise.
C'est dommage qu'elle n'ait pas chanté.
Et ça manque de pub.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi?
Qu'est-ce que je dois te dire? Mais qu'est-ce que je fais là?
Oui, Jack, souvent, toujours dans les rues de Toulouse?
C'est combien, 1,50? Ah, j'ai que des boulons dans les poches. Alors, j'arrive, hein, je vais vous payer.
Vous êtes chez le boulonnier, le bouloniste?
Oui, alors je prenais l'encouragement. C'est quoi votre nom? Encouragez-moi.
Bon courage.
Voilà, bah oui.
Déjà, trouvez-vous 1,50 pour payer votre café. Ça commence bien, l'hospitalité toulousaine.
Parce que je voulais tester l'hospitalité toulousaine. Et vous savez, il y a ces heurtoirs. J'ai appris que ça s'appelait heurtoirs sur les portes. Et je voulais qu'elle m'accompagne pour aller taper à la porte.
Bonne journée, mais je vous accompagne à distance et je suis à fond avec vous.
Wow.
Ouais, à fond.
Oh, alors, vous me regardez.
Allez.
Bon, bah, j'y vais vite, mais il pleut. Alors, je traverse la route.
Jack, vous avez tenté. Vous avez tenté de ne pas payer vos 1,50 de café?
Non, mais dans ma poche, je n'en avais pas. Je tape, j'y vais. 1, 2, 3.
Il tape à une porte au hasard dans une rue de Toulouse. Il heurte une porte au heurtoir.
C'est bloqué.
Allez-y, approchez le micro. Ah la vache. Hola, hola, séant. Hola, messire.
À boire,
à boire pour mes gens. Du foin pour mes chevaux.
Est-ce qu'ils ouvrent ou pas? Attendez.
C'est très seigneurial. Oh,
j'adore ce truc-là.
Vous avez donc frappé à lui?
Ah, mais il y a des digicodes maintenant, c'est pas bon. Ouais.
Mais la bobinette chérera ou pas?
C'est pas, il se passe rien. Au revoir!
Est-ce que vous avez, en frappant une porte, vous avez déjà reçu un seau d'eau usée sur la tête?
Je ne sers pas. J'ai appuyé dedans, ça marche pas.
J'aime bien la notion d'eau usée, elle est très usée cette eau.
Désolé, il y a un monsieur à la laverie qui a sorti la tête, je vais aller le voir.
Il avait la tête dans le tambour?
La belle verte!
Qu'est-ce qui se passe dans les rues de Toulouse? C'est pas clair.
C'est une urgence.
Vous avez une urgence au lavomètre?
Ça y est, je l'ai trouvé. Je vous ai vu sortir la tête.
Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que vous avez entendu, que j'ai crié à boire?
Pardon?
Non?
Je veux rien.
Ils m'ont foutu la main avec le micro, et puis je suis en face d'un escalier. Et qu'est-ce qu'il y a marqué sur l'écriteau, monsieur?
Cours de chinois.
Et oui, il y a du cours de chinois pour faire. On y va ensemble. On prend notre premier cours de chinois.
D'accord.
On y va.
Et oui, ça commence à 9h.
Oh mince. Mais qu'est-ce que vous faites dans des cages d'escalier comme ça à cette heure-là, vous?
Je nettoie les escaliers. Quoi? Je nettoie les escaliers.
Ah, vous nettoyez les escaliers, mais vous n'avez pas de balai ni rien?
Tout là.
Tout dans la tête.
En fait, non, sous l'escalier de cet immeuble, il y a comment ça s'appelle? Il y a un petit placard, un peu comme où se planque Harry Potter.
Il y a des enfants enfermés qui ont été punis?
Non, il n'y a pas d'enfants enfermés. Je continue, je rentre dans une cour intérieure. J'ai l'impression d'être, comment il s'appelle, le gars qui faisait la chasse au trésor. Là.
Dieu le veut.
Bon, voilà.
Et le trésor, c'est vous, cher Jack Souvent.
Il y a quelqu'un?
Les matinées toulousaines de Jack Souvent. Refuser de payer 1,50€ de café, aller frapper à une porte inconnue, faire heurter lui contre la brique, puis croiser une tête qui sort du lavomatique, un homme qui lave sans accessoires, sans balai, sans serpillière, qui lave avec sa tête ce cours de chinois qui n'ouvre qu'à 9h, et puis Jack Souvent qui hurle seul dans les rues de Toulouse, qui hurle son amour de l'humanité, de même que certains acteurs hurlent leur absence de mystère. Jack Souvent crie son amour de l'humanité. A tout de suite. Alors Violette, qui nous a dit son poème tout à l'heure, est allée préparer une chanson avec Atmen et Tito. Et il y a Constance qui nous aide, qui est à l'accueil aussi. Il y a plein de monde qui arrive pour les papouses, Constance.
Oui, il y a beaucoup de monde ce matin, oui.
Et ça va ton cours de théâtre, toi ou pas?
Ouais, ça se passe très 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 bien.
Tu travailles quoi en ce moment ?
Alors, qu'est-ce que je travaille ? J'ai travaillé un poème, là, récemment.
C'est quoi ?
Alors, c'est une poétesse contemporaine qui s'appelle Céline Escouteloup.
Dis-moi les trois premiers vers et arrête-toi juste au moment où on aurait envie d'en connaître plus.
Alors, quelle est la prochaine phrase musicale ? C'est pas très difficile, je la devine presque toujours.
C'est parfait, j'ai envie d'en savoir plus, donc il faut arrêter. Ça
un
sera
enchaînement
bon.
Parfait.
Voilà, enchaînement parfait. Ouais. Violette, 11 ans, et ses accompagnateurs qui chantent du Salvador.
Le Salvador du Boris Vian.
On écoute. Il y a de tout ce matin, c'est une richesse, et même la terre vous sent.
Une bonne paire de claques.
Ouille.
Dans la gueule. Un bon coup de savate.
Aïe.
Dans les fesses.
Dans les fesses.
Bien.
Un marron sur les
mandibules.
Oui,
ça vous fait une deuxième jeunesse. Une bonne paire de claques.
Aïe!
Dans la gueule. Un direct au creux.
L'estomac.
Oh, ouais.
Les orteils coincés
sous une meule.
Un coup de claque en plein tagada.
Bravo.
Magnifique.
Bravo. Voilà. Pub, ça c'est fait.
7h-9h plus près de toi.
Plus près de toi. 7h-9h.
C'est où déjà plus près de toi ? Tu savais, non ?
Dites-moi, il y a eu deux bières déjà ? On n'arrête pas de nous vendre de la bière ce matin. Qu'est-ce qu'on
Mais
a ?
Parce qu'il faut comparer, Edouard.
Ah bon, donc c'est, ah bah ça oui, vient par... Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on a des têtes à boire de la bière à 8h du mat'?
Fallait que je vous en parle.
Eh ben ouais. Marie Missé, bienvenue dans l'espace.
Merci.
Marie Missé, qui est un espace de luxe.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Missé.
Avec la voix de notre camarade Dupuche qui fait le générique de Marie Missé.
On m'avait encore jamais traité d'espace. C'est un espace.
Alors, vous avez votre nom, écoutez, peut-être un lycée, un espace, vous avez plus tard la postérité,
bien,
un
bien,
boulevard.
Je travaille là-dessus tous les jours. Oui. Pour la postérité.
Qu'est-ce qui s'est passé, chère Marie ?
Alors, il y a ce très très beau libé des écrivains aujourd'hui sur lequel je me suis un petit peu arrêtée. Il y a vraiment beaucoup de choses dedans, ça m'a donné plein d'envie, plein d'idées.
Alors,
je sais pas si j'ai
pas tout en idée.
Ouais, je sais pas si j'ai réussi à aller quelque part, mais en tout cas, je vous le conseille très très honnêtement aujourd'hui. Alors, donc le Libé des écrivains qui sort aujourd'hui avec des participations d'écrivains du monde entier et la plupart des textes très politiques, eh bien, il en ressort une impression, l'impression d'un monde au bord du précipice. Hein, tout juste là et au bord
suffirait pas grand
de
chose,
l'inconnu,
un petit peu,
ouais. Surtout un territoire à défricher. Alors il y a par exemple Paolo Bassi Galuppi, qui est un écrivain de science-fiction américain, qui écrit que pour lui, son travail d'écrivain consiste à déterminer où sont les points d'inflexion, c'est-à-dire ces moments charnières à partir desquels on ne peut plus revenir en arrière, à partir desquels les opportunités sont définitivement perdues. Autrement dit, ces moments à partir desquels on s'enfonce en territoire inconnu. Et pour lui, le danger, c'est de rater ces points d'inflexion en ce moment à cause, par exemple, de tout le bruit que fait Trump et qui empêche d'entendre dans le brouhaha les avertissements étouffés du monde. Je le cite, « Ne vous concentrez pas sur le bruit, dit-il. Rien ne finira avec Trump, rien n'a commencé avec lui. Concentrez-vous sur les courants silencieux qui grandissent partout autour de vous. Alors tentons la chose, concentrons-nous sur ces vaguelettes qui formeront les futurs tsunamis. » Un autre...
Attendez, je dois digérer, c'est très beau ce que vous venez de nous raconter. Prenez trois secondes,
c'est pas
après
moi,
on vous
coup.
Dit... Oui, mais la
c'est
votre
pas
face... C'est pas... On prend trois secondes, hein. Ça y est.
Puis alors un autre écrivain américain, David Vann, ajoute en édito de manière un petit peu moins poétique que le plus impressionnant avec Trump et autres, c'est la fragilité de nos démocraties occidentales. Une fragilité qu'exploitent les démolisseurs, nom donné notamment à Viktor Orban et Boris Johnson dans Le Monde, qui consacre une pleine page aujourd'hui aux démolisseurs de l'Union européenne. Boris Johnson, donc fervent artisan du Brexit, dont le but ne semble pas être autre chose que la démolition, puisque une fois que le Brexit a gagné, il n'a pas voulu gérer la suite. suite. Pour l'instant, il est écarté. Boris Johnson, il est à l'étranger afin d'éviter, je cite, qu'il ourdisse un nouveau complot. Il est bon que Boris Johnson se taise pour le moment, estime un ambassadeur d'Europe du Nord à Londres. Saper l'Europe, eh ben, c'est un petit hobby de Boris depuis les années 80, quand, après avoir été viré du Times pour une fausse citation, il devient correspondant à Bruxelles pour le conservateur Daily Telegraph. Et il commence donc son travail de sape en inventant un peu tous les jours des scoops, relayés par son journal, qui ne le vire pas lui, en voyant des clones d'Hitler un petit peu partout et enfonçant lui aussi à long terme son pays aujourd'hui dans un territoire inconnu dont il n'a pas vraiment les clés et dont il ne veut pas les clés.
Il est à l'étranger, j'aime bien cette appellation, il est à l'étranger.
Oui, il est à l'étranger, un peu partout. Hein. Il a fait un peu le tour du monde depuis le Brexit. C'est d'ailleurs assez amusant de voir que les écrivains, auteurs donc de ce Libé, des écrivains, sont si inquiets de la distorsion de la réalité par les démolisseurs, alors que même eux la distorde pas mal, cette réalité. Et d'ailleurs, Julien Decoin, écrivain, donc, propose, pour rentrer en résistance, d'inventer des histoires, lui aussi, d'autres qu'on raconterait aux enfants pour changer le cours des choses et préparer donc ce monde inconnu avec des enfants qui auraient appris, par exemple, dans les livres, à ne pas avoir peur de l'autre. Alors, si on se sent le cœur vert et prêt à prendre le maquis, la résistance, comme on nous l'enjoint dans ce Libé, mieux vaut éviter aujourd'hui la lecture de cet article du Figaro qui raconte que pour la 10e, 20e fois, on a refait l'expérience de Milgram, cette fois en Pologne, et qu'elle s'est soldée par le même résultat qu'à chaque fois, les hommes préfèrent torturer que désobéir. Alors vous connaissez peut-être cette expérience, elle a été faite dans les années 50 au tout début.
On voit dans I comme Icar le film.
Tout à fait. Un prétendu chercheur, un cobaye et un comédien. Le cobaye ne sait évidemment pas que le comédien est comédien. Le chercheur demande au cobaye de donner des décharges électriques au comédien. Celui-ci crie de douleur et 8 fois sur 10 à peu près, le cobaye préfère faire hurler le comédien pendant de longues minutes plutôt que de désobéir au chercheur. Et bien une fois encore, en Pologne, ça s'est vérifié. Si on veut
hurler les comédiens, c'est...
Oui, c'est dit comme ça, ça fait pas très peur. Si on veut prendre les choses de manière un petit peu plus optimiste, il reste à lire ce très beau texte de l'écrivain marocain Abdellah Taïa dans Libé, donc. Et imaginez que si on vous demande une fois de torturer quelqu'un, peut-être qu'on le fait, mais si on nous le demande pendant des années, c'est fini par exploser. Le printemps arabe n'est pas complètement mort, dit-il. Je sais que les gens sont passés à autre chose, qu'en Occident, on a la mémoire courte, mais aujourd'hui, le feu est là, partout, dans le cœur, dans les têtes. On n'oubliera pas ce feu. Et pour finir, il reprend les mots de James Baldwin, écrivain noir et gay américain qui écrivait dans les années 60. Au moment même où je me crus perdu, mon cachot trembla, mes chaînes tombèrent. Il dit « Je suis écrivain arabe et homosexuel et je reprends ici les mêmes mots que lui, exactement les mêmes. »
I'm not your negro. Merci beaucoup, chère Marie Missé. Tout de suite, il se place entre Marie Missé et Thierry Paret. C'est Thomas Baumgartner, l'invité surprise de 8h30. Thomas, vous avez pris des petites notes pendant le journal de Marie Missé.
Oui, parce que Marie disait que Boris Johnson avait été viré du journal où il travaillait pour fausses citations. Et ça m'a rappelé une citation qui était « C'est pas chez nous qu'on inventerait des fausses citations. »
Elle est très bien, elle est fausse. Et elle est fausse, c'est une fausse citation, parce que c'est pas vraiment lui. Il n'a pas vraiment dit ça.
Non.
Et ça n'est pas vous qui venez de les répéter.
Je ne suis pas ici non plus.
Voilà, et personne vous a donné la parole.
Merci à vous.
Thierry Paret, 8h31. J'ai décidé de suranimer chaque phrase afin de faire de l'animation FM. 8h31, presque 32. Attendez, il y a mon Gabur qui est là. Mon Gabur, ça va ?
Très bien.
Très bien. Écoute le journal et tu parleras après.
Mais personne ne sait qui est mon
Gabur. Mais c'est pas grave. C'est beau, mon Gabur est là, c'est bien. Chut, sortez du journal.
La police britannique a mené un raid dans un appartement de Birmingham cette nuit et procédé à plusieurs arrestations. Une opération qui serait liée à l'attaque de Londres hier. Le bilan de cette dernière s'élève désormais à 5 morts, dont l'assaillant. Une quarantaine de blessés aussi. La police britannique privilégie la piste du terrorisme islamiste. Un homme qui roulait à vive allure a donc percuté d'abord plusieurs piétons qui empruntaient le pont de Westminster. Ensuite, il s'est encastré dans une palissade du Parlement britannique, enfin du moins son véhicule, et puis il a réussi à entrer dans le jardin de ce même Parlement pour y poignarder à mort un policier avant d'être finalement abattu. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a mis en ligne hier en soirée, après 18h, les déclarations de patrimoine des 11 candidats à l'élection présidentielle. Biens immobiliers, comptes bancaires, véhicules, montres, enfin voilà, tout y est passé. Ces déclarations sont publiées pour la première fois conformément aux lois sur la transparence adoptées en 2013 après l'affaire Cahuzac. La Haute Autorité de la primaire du PS dénonce, elle, dans un communiqué, le comportement de Manuel Valls. Selon elle, en ne parrainant pas Benoît Hamon et en critiquant son programme, l'ancien Premier ministre est allé à l'encontre de l'esprit des primaires, dont l'engagement principal consiste à soutenir sans réserve le candidat sorti vainqueur. Amnesty International accuse Washington et Londres d'alimenter la crise humanitaire au Yémen par leur livraison d'armes à l'Arabie Saoudite. L'organisation précise dans un communiqué que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont livré pour plus de 5 milliards de dollars d'aide à l'Arabie Saoudite, un montant 10 fois supérieur à l'aide que ces deux pays ont apportée au Yémen en 2 ans. L'ONU a reçu moins d'un tiers des fonds nécessaires pour éviter une famine. famine en Somalie. Une réunion du Conseil de sécurité consacrée à cette crise alimentaire est programmée aujourd'hui. L'ONU estime que plus de la moitié des 6,2 millions de Somaliens ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. La Corée du Nord pourrait être à l'origine du vol de 81 millions de dollars sur un compte que la Banque centrale du Bangladesh détenait auprès de la Réserve fédérale de New York. C'est ce qu'affirme en tout cas le Wall Street Journal du jour. Susciter l'intérêt d'investisseurs chinois, c'est l'objectif de la société organisatrice du Tour de France cycliste. Ça va se traduire comment? Par l'organisation d'un critérium à Shanghai en octobre, une première. La course réunira des participants de l'édition 2017 du Tour de France et des coureurs cyclistes chinois. Il faudra qu'en Chine, le vélo, c'est surtout considéré comme un moyen de transport. La météo, il va beaucoup pleuvoir ce jeudi et il y a une alerte aux orages dans le sud-est, notamment en Ardèche, dans le Gard et en Lozère.
On y venait dans la rubrique météo. Seulement maintenant qu'il y a Tito, vous vous remettez à faire de la météo.
Ah non, je pense que Tito n'aurait pas parlé des alertes.
Ah, si, attention, parce qu'Atmen, vous étiez énervé par cette affaire Valls-Hamon. Vous aviez une chronique politique à faire.
Oui, tout à fait. Je trouve que c'est pas bien. Voilà.
Ah, dis donc, oui.
C'est pas fair play, quoi.
Oui.
C'est pas bien d'aller bouder dans son coin.
Oui, c'est votre analyse politique.
Ma vraie analyse politique, c'est de dire c'est pas bien. Voilà.
Oui.
C'est pas bien.
D'accord. Je préfère passer à la météo.
C'est courageux de dire
ça. Non, mais attendez, je le redis, c'est pas bien.
Oui, météo Tito.
C'est pas bien.
C'est intéressant.
Ay, no me digas que si. Ay, no me digas que no.
Ay, no me digas que sí.
No me digas que no. No me digas que sí. No me digas que no.
Alors aujourd'hui, attention, c'est la mi-carême. Les températures seront de 1 à 10 à Angers, de 2 à 12 à Bordeaux, Corté de 8 à 18, Laval de 1 à 10, Marseille de 11 à 19, Melun de 3 à 14, Nantes de 2 à 10, Saint-Étienne de 5 à 13, Venise de 9 à 14.
Ay, no me digas que sí.
Avec un invité, Michael.
Ay, no me digas que no.
Encore, vas-y, encore.
Que sí.
Que no. No me digas que sí.
Dans cette météo, j'ai fait une petite caricature que je vous montre à la radio qui ne représente personne. A tout de suite.
Pro.fr. Près de toi.
7h, 9h.
Ça sent le café, la tartine.
Il n'y a pas assez de pub, il n'y a pas assez de pub. Il m'en faut plus. Jacques Souvent, à Toulouse.
Êtremarin.fr, sonnez, s'il vous plaît.
Êtremarin, vous sonnez sur Êtremarin.fr? Monsieur, il devient fou à Toulouse.
Je voudrais devenir marin. Vous avez quel âge là? J'ai 45 ans. Ouais, un peu tard, jeune homme. Ça le fait pas, non? C'est de 17 à 30 ans. Ouais. Soyez sympa.
Et après, on est quoi? On est piéton après 35 ans?
Après 35 ans, vous pouvez opter pour la réserve opérationnelle. Voilà.
Parce que la mer ne prend plus. La mer rejette les vieillards?
Non, mais comme on dit, place aux jeunes.
Oui, place aux jeunes. Eh oui. On me le dit aussi tous les matins, je reçois des lettres anonymes.
Voilà, ben nous, on part de principe à la place aux jeunes.
On n'entend pas assez bien le micro. Jacques, souvent, la qualité n'est pas là au niveau sonore.
Ah, c'est au niveau du temps, alors.
Ah voilà, on vous entend mieux, monsieur. Donc, donc 45 ans, mon camarade Jacques voulait postuler pour la... C'est la marine nationale, la marine marchande? C'était quelle marine?
Non, c'est la marine nationale, là, chez les militaires.
Alors, est-ce qu'il pourrait aller peut-être dans le civil, peut-être dans le monde de la pêche?
Aucune idée, mais là, sur Toulouse, mettons les qui trouvent.
Et au port de Toulouse, il y a des porte-containers?
Non, on s'occupe que des péniches.
Ah, de la marine fluviale, alors?
Absolument, mais là, c'est pas nous du tout.
Est-ce qu'il y a de la défense fluviale en France? Est-ce que la France est menacée par voie fluviale, par les forces de l'étranger?
Joker.
Merci, monsieur.
On parle recrutement.
Essayez de lui faire quelque chose, même à la cantine ou corvée de chiottes. Prenez-le pour quelque chose, là, Jacques Souvent.
Là, il nous a regardé enlever des panneaux et il nous a laissé faire. Donc, il n'a pas trop la motivation pour venir avec nous.
Bon, écoutez, essayez un petit peu de le former. C'est un gars qui n'en veut.
Ouais, j'ai même essayé. Je lui ai proposé la tondeuse pour une coupe de cheveux réglementaire. Même ça, il est réticent. Donc, ça va être compliqué.
Et est-ce qu'on est obligé... La coupe de cheveux réglementaire, c'est juste sur les parties émergées du corps ou sur le système pileux aussi? Tout le torse doit être épilé dans la marine.
Faut voir côté médecin militaire, ça.
Donc médecine militaire, il n'y aurait rien pour lui à l'infirmerie?
Non plus, non.
Bah dis donc, alors merci, engagez-vous, qui disait.
Ah ouais, mais tout ça, c'est une partie de, ça fait partie de l'âge.
Voilà, l'âge, l'âge. On en revient toujours à ce problème-là.
Ils veulent des jeunes.
C'est le pileux moins développé.
Bon, mais merci, on vous le laisse quand même pour coller trois affiches ou chanter des chansons de marin. Merci, messieurs.
Avec plaisir.
Retour plateau, faites un jingle à la bouche pour le. Thomas Riby, bonjour.
Pire en pire les chansons d'introduction.
Bonjour. Pire en pire.
Non, de mieux en mieux, pardon. Enfin, c'est intéressant.
Tu vas nous faire les tranches plus fines.
Attention, mon vieux, parce que je sais où que tu crèches. Et dis-moi, Thomas, vous êtes allé voir un petit peu, je vous avais demandé, hein, c'était d'aller enquêter un peu sur l'activité de Bernie Sanders depuis les élections américaines, parce que j'étais voir un peu sur Internet, je trouve que c'est extraordinaire tout ce qu'il fait, alors qu'il va sans doute pas se représenter aux élections. Je trouve qu'il est, c'est magnifique comme il continue à se battre pour ses idées. Pour l'Amérique qu'il aime.
Il y a deux conclusions, c'est que déjà c'est magnifique ce qu'il fait et par ailleurs c'est magnifique Internet parce qu'on peut y trouver une folle de choses vachement intéressantes, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous savez comment sont les campagnes électorales. Elles sont longues. Pour les candidats, c'est épuisant. On passe d'un marché à un meeting, une réunion, des gens qui vous insultent, qui vous jettent de la farine, des œufs, qui vous traitent de corrompus, parfois c'est vrai. Bref, quand les élections sont passées, en général les candidats se reposent, c'est normal, c'est la tradition. C'est encore plus vrai aux États-Unis où la campagne électorale qui mène à la présidentielle en comptant les primaires dure parfois jusqu'à 2 ans. Hillary Clinton, par exemple, depuis la fin de l'élection, depuis qu'elle a perdu, elle s'est faite discrète, on n'a plus entendu parler d'elle. Même chose pour les candidats aux primaires républicaines, je ne sais pas si vous en souvenez, Ted Cruz, Jeb Bush, ils se reposent, on n'entend plus parler d'eux et c'est normal.
Il manque.
Et Bernie Sanders, c'est l'exception. C'est le candidat malheureux, comme on dit, face à Hillary Clinton aux primaires démocrates. Et depuis l'élection de Donald Trump, il est partout, on n'entend plus que lui. Il est devenu une sorte de héros pour les Américains désespérés d'avoir Trump comme président et une sorte de plaie pour le président en question et ses amis. Il est de tous les combats anti-Trump. Avant-hier, par exemple, il participe à une toute petite manifestation contre le harcèlement des sans-papiers aux frontières. La foule adore, il l'applaudit, l'image est forte, elle est diffusée partout. Quelques jours plus tôt, il participe à une autre manifestation contre les écarts de salaire trop importants entre les patrons et les salariés. Ça se passe dans le Michigan, dans une usine Nissan. La foule l'adore, l'image est forte, elle est diffusée partout. Encore quelques jours plus tôt, il tient un meeting dans l'une des villes les plus pauvres du pays, qui a massivement voté Trump en novembre dernier, plus de 70%. Il retourne le public, qui l'applaudit. Une femme se rapproche, elle le prend dans ses bras, la foule l'adore, l'image est forte, elle est diffusée
partout. Pardon, parce que vous y mettez un tout petit peu d'ironie.
Pas du tout,
je trouve ça très beau. Il a réussi à convaincre quand même. C'est une région qui a voté quasiment 80% pour Trump contre l'Obamacare. Sanders est arrivé, leur a expliqué ce que c'était que la sécurité sociale. Ah ben non, mais c'est formidable en fait. Bah, c'est un peu tard. Oui.
Exactement. C'est assez impressionnant. Alors après, les gens qui étaient dans le public, au départ, ils n'étaient pas si hostiles que ça. Ils étaient quand même plutôt bienveillant à son égard. Et ce qui est intéressant aussi, mais ça c'est un autre sujet, c'est que beaucoup de gens qui ont voté Trump à la présidentielle avaient voté pour Bernie Sanders à la primaire démocrate, parce qu'il avait aussi lui aussi un côté un peu anti-système.
Ah, ce fameux mot.
Exactement, en tout cas c'est comme ça qu'il était perçu. Bref, il fait le tour de tous les États en ce moment qui ont voté pour Trump, et il dit qu'il essaye de reconquérir la population, et il se place aussi au sein du Parti démocrate. La presse le présente désormais comme le leader de l'opposition anti-Trump dans le pays. Mais il y a une chose que fait Bernie Sanders qui énerve particulièrement l'équipe de Trump, une chose que les opposants ne font pas habituellement. Ils se moquent, et en plus, ils se moquent super bien. Sanders, il est sénateur à Washington, et à ce titre, il est chargé avec d'autres parlementaires d'auditionner les futurs responsables de l'administration. C'est une règle aux États-Unis. Si vous êtes nommé ministre, par exemple, vous devez passer devant une commission de sénateurs, grand oral, devant des sénateurs qui sont parfois hostiles. Et Trump, donc, se retrouve face à des futurs ministres, par exemple, de Trump. Et il est toujours horriblement désagréable. Il se moque d'eux. Ça fait des vidéos virales sur Internet. Ça ressemble presque à des humiliations publiques. Ça a commencé avec Betsy DeVos en janvier dernier. Je devrais presque l'appeler la pauvre Betsy DeVos. Trump veut la nommer ministre de l'Éducation nationale, sauf qu'elle est nulle, elle n'y connaît rien. Elle a tenu des propos par le passé du genre, j'ouvre les guillemets, « l'État ça craint ». Donc résultat, les parlementaires la cuisinent. La pauvre Betsy DeVos est très gênée, elle s'embrouille avec ses chiffres. Et là, Bernie Sanders intervient, je vous l'ai dit, il se moque super bien. Sanders, combien votre famille a-t-elle payé au Parti républicain ? La pauvre Betsy DeVos. J'aimerais vous le dire, mais je n'en sais rien. Sanders, pensez-vous que si vous n'étiez pas multimilliardaire, que votre famille n'avait pas donné des centaines de millions de dollars au Parti républicain, vous seriez assise là aujourd'hui ? La salle rigole. La pauvre Betsy DeVos ne rigole pas. Boum, des millions de vues sur Internet. Deuxième exemple, encore plus cruel. Scott Pruitt. Je devrais plutôt dire le pauvre Scott Pruitt. Je précise que je ne suis pas sûr de la prononciation de son nom. Ça s'écrit P-R-U-I-2-T. Donc, on va dire Prout.
S'il nous écoute, on s'excuse, mais bon.
J'imagine que c'est Prout, mais
alors,
en français...
C'est le type qui était à la commission de l'environnement ou c'est
pas... Exactement. Ouais, c'est ça. Il est climato-sceptique. Il a passé énormément de temps par le passé à se battre contre l'Agence nationale pour l'environnement et ses recommandations. Et là,
il est nommé patron
de l'Agence nationale pour l'environnement. Là encore, Bernie Sanders est hyper désagréable et il se moque. Question. Pensez-vous que l'homme est responsable du réchauffement climatique? Prout. Oui, d'une certaine manière. Sanders. Quoi, d'une certaine manière? Quelle certaine manière? 97% des scientifiques disent que le réchauffement est dû à l'activité humaine et vous, vous dites d'une certaine manière? Prout. Sanders, je trouve ça quand même fou qu'on puisse imaginer nommer à la tête de l'Agence pour l'environnement quelqu'un qui dit que l'homme ne contribue que d'une certaine manière au réchauffement climatique. Prout. Oui, mais je dis juste qu'on peut pas mesurer précisément l'impact de l'homme sur le réchauffement climatique. Si ça se trouve, il y a d'autres raisons. Sanders. Quoi, d'autres raisons? Alors que 97%, bref. Et puisque c'est comme ça, je ne voterai pas pour
vous.
Ah
non, il y a la chute. Après, l'autre type, il dit, quel est votre avis personnel sur la question? Et le type lui a dit, écoutez, moi, j'ai pas tellement d'avis personnel. Vous n'avez pas d'avis personnel? C'est ça.
Oui. La chute, c'est il dit, face caméra, puisque c'est comme ça, je ne voterai pas pour vous. Il retourne sa feuille, il s'en va. Boum, le pauvre Scott Prout est humilié, des millions de vues sur Internet encore une fois. Et Bernie Sanders a encore gagné. Mais alors la question qui se pose est, que veut vraiment Bernie Sanders?
En tout cas, il fait du bien pour le moment. Vous croyez qu'il peut encore se représenter ou il est trop vieux?
Eh bien justement, en général, quand les hommes politiques se montrent beaucoup, qu'ils mobilisent autour d'eux, qu'ils énervent exprès leurs adversaires, c'est qu'ils rêvent de devenir président. Or, lui... À 76 ans, il en aura donc 79, on revient toujours à la question de l'âge, lors de la prochaine présidentielle, 79 ans, ce qui fait un peu beaucoup. Mais des journalistes lui ont quand même posé la question il y a quelques jours. « Monsieur Sanders, pensez-vous déjà à la présidentielle de 2020 ?» Et Sanders a répondu « Trop tôt pour en parler. » Et ça, ça veut dire aux États-Unis, comme ici, comme partout, bien sûr que j'y pense.
Oui, mais vous avez dit « Ok, des millions de vues sur Internet, ok, il va être président. » Moi, je trouve que c'est quelque chose de formidable de suivre les activités, le mouvement, les paroles de Bernie Sanders en ce moment. Ça fait énormément de bien.
Eh bien, tant mieux.
Salut, merci Thomas Grigny.
Avec plaisir.
7h, 9h, plus près de toi.
Plus près de toi.
Quel physique. Il doit faire de la radio. C'est servi.
Il faut pas qu'on décode parce qu'il faut vraiment qu'on rende l'antenne à 9h. Mais il y a les papouses qui sont là, donc il y a une sorte d'excitation. Bonjour à tous! Ah là, parce qu'il y a beaucoup de monde. J'aime bien, c'est des trucs, c'est la radio de mon enfance. C'est le jeu des 1000 francs, on entendait des ouais comme ça. Rudy, est-ce que vous êtes. Ils sont 4 les papouses, vous êtes 4?
Normalement, ils sont 5, c'est ça?
Attendez, je vais les voir.
Va les voir.
Pourquoi normalement? On n'est pas dans un cas normal. Arrête de. Il y a Ulysse qui est en train, des papous qui est en train d'engueuler l'ingénieur du son qui n'a pas branché sa guitare. Si tu étais arrivé à l'heure, à quelle heure tu t'es levé?
Je me rappelle plus.
Voilà, bravo. Pourquoi normalement vous êtes 5 et nous on a droit qu'à 4?
Parce que notre batteur est en vacances. Congé maladie.
Non, mais pas du tout. Il est dans le sud-ouest en train de se construire une cabane dans les bois. Et puis voilà.
Alors les Beatles, ça a commencé comme ça, ils se sont engueulés. Et il suffirait qu'il y ait Yoko Ono qui arrive en plus. Et là, ça serait vraiment la guerre, quoi. Personne n'est d'accord chez vous?
Tout le monde est d'accord. Tout le monde est là.
Tout le monde est d'accord pour s'engueuler, la contradiction. Une cabane dans les bois, 4 musiciens sur 5. Ce live s'annonce magnifiquement. Je m'auto-anime maintenant, je fais mes propres ouais. Rudy, présentez-nous les papouses. Il y a un vrai engouement féminin dans le studio. Il y a eu déjà un jeté de soutien-gorge sur certains membres des papouses.
Un doux rêve éveillé.
Oh là, attends, t'as l'air en forme. Attendez, s'il vous plaît. Alors attendez, pour bien écouter le message de Rudy sur les papouses, tout le monde assis par terre. Asseyez-vous tous par terre. Allez. Allez, on s'assoit par terre, tout le monde. Tout le monde, voilà, une soixantaine de personnes, mais presque 80, 90, sont assis dans le studio Nova. Fais-nous rêver, Rudy, parle fort.
Ben, fermez les yeux, alors.
Vas-y.
Derrière la radio et ici. Un doux rêve éveillé. Il est 8h52. Bienvenue à bord d'un trip soft, d'un trip cool. Nous sommes le 23 mars 1974, donc le mot trip est encore autorisé. Venez vous détendre, venez vous relaxer. Vous relâchez en papousie en compagnie des papouses. Voyez comme les jeunes hommes sont délicats, les cheveux sont longs, ils sentent ce sable chaud qu'elle est méchantée. Les couleurs des kimonos sont semblables à des hallucinogènes. Les filles sont là, elles sont bien, elles ont des regards d'ange. Si vous tendez bien l'oreille, vous entendrez le bruit des vagues, celle du Cap Ferré. Face à nous, les premiers rayons du soleil se lèvent sur l'eau, fin de soirée, ou une nomme matinale, on ne sait plus très bien. La chaîne pas encore ifi passe New Age du Velvet et enchaîne avec Chega des Saudades de Carlos Jobim, une ambiance solaire entre une bande de potes. Le Café Nova devient cette maison dans le sud où il fait bon de se prélasser. Et puis deux autres voix arrivent, femme ou homme, on ne sait pas, on s'en fout. Armand, petit soleil, et Ulysse, grand innocent, vous êtes papouze. Nous vous suivons, les gars.
C'est parti. Les papouzes en live ce matin, en vivant, ici, quand vous voulez, les gars.
C'était Les Papous ici, en direct dans Tsunova. Merci. Moi, je vous retrouve à grand plaisir lundi prochain. Salut Rudy. Et voici les magnifiques 30 Glorieuses. Au revoir, les amis.
Bonne chance.
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.
Hey, nous a donné l'antenne avant.
8h58.
Mais il est fou, Edouard.
Oh là là, énorme.
Bah, c'est le problème d'Edouard. C'est où il est en avance, ouais. Où il est en retard. Là, on a une minute, on peut faire ce qu'on veut. Là.
Mais c'est un live de blanc. Et les blancs sont à l'heure, il faut le dire. Je veux dire, à un moment,
voir, tu vois, ils sont courts.
Quand c'était Pachibaba, voilà, on a pris à 9h15. Mais là, quand c'est Papouze,
8h59. Attention, Pachibaba, c'est pas le groupe de musique de Cyril Hanouna. C'est Pachibaba. C'est...
Ah bah là,
il est... Mais là, on est, en fait, on est dans l'émission d'Edouard, c'est bien ça.
Ouais, on est encore plus près.
Tais-toi. Voilà. Météo. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est bien.
Donc, Eugénie, voilà. Il est prêt, le direct. Eugénie, c'est quelqu'un qui travaille oui, dans l'ombre.
Bah, c'est Eugénie, c'est celle qui tient.
Ouais, qui tient
en fait, vraiment l'émission. Parce exactement. Que sans Eugénie, Edouard serait en slip.
Ouais.
Voilà, vraiment, elle essaye d'ordonner tout cela.